Le point de rupture au Paris Saint-Germain, c'est le sujet phare du jour après tout ce qui se passe. Au moins 4 défaites en mois. Là, en ce moment, il y a les supporters qui sont au camp des loges pour protester, chose qu'on n'a pas vue depuis des années. Donc là, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau direction, ou que ce soit côté supporter, il n'y a rien qui va. Donc aujourd'hui, on est avec Dryas et Basto. Dryas, tout d'abord, le côté sportif, on est clairement à un point de rupture. Il ne se passe rien sur le terrain. On ne sait pas ce que Galtier y fait. Encore, on a perdu hier et on n'a rien vu sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Je pense qu'on n'est pas à un point de rupture, on a un point de continuité, quoi. En fait, même on a un point de continuité depuis plusieurs années. La seule chose de nouvelle cette année, c'est que là où on avait encore un peu de compétence, on a mis de l'incompétence. Je m'étais dit que je réserverais mon jugement pour après Munich. En fait, là, c'est juste du cosmétique, réserver son jugement pour après Munich, on peut le prendre dès maintenant. Il n'y a rien à attendre de cette équipe. Moi, il y a une réflexion que je me fais, c'est que si on prend un supporter marseillais un peu old school, anti-Paris, machin truc, qui nous vanne, le mec, tu sais que c'est un fond-blard, parce qu'il n'y a même pas besoin de vanner le Paris Saint-Germain, parce qu'aucune vanne que tu pourrais faire sur Paris Saint-Germain ne sera assez forte pour égaler les vannes que Paris Saint-Germain se fait à lui-même. Sportivement, il n'y a rien, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a aucune animation offensive, il n'y a aucune animation défensive. On s'est retrouvé fin d'année à avoir peut-être une illusion avec le milieu à 3, mais avec Ruiz, avec Verratti, avec Vitinha, mais ça a été juste une illusion. Il n'y a strictement rien, il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à garder, que ce soit dans les relations entre les joueurs, que ce soit dans la manière de jouer ensemble, que ce soit dans la structure même de l'équipe, que ce soit dans le choix des compositions, que ce soit dans la manière d'animer cette composition. Il n'y a strictement rien, c'est du zéro pointé. Attendre quelque chose à cette fin de saison, c'est juste vouloir se bercer d'illusions. Il y a un moment, il faut juste regarder la vérité en face, et c'est du zéro pointé.
Et toi, Basto, tu penses que côté sportif, il faut encore espérer des choses, ou là, on est vraiment sur le pire piégé qu'on a vu depuis des années, voire plus d'une décennie?
Je pense qu'il faut espérer conserver la place dans les deux premiers. Tout simplement, on en est là actuellement, parce qu'une troisième place, ce serait quoi? C'est le PSG qui doit passer par un tour préliminaire, une quatrième place, c'est l'Europa League. Donc ça, c'est ce que le PSG doit espérer. Est-ce que nous, on n'espère pas une dégringolade? Est-ce que ce serait pas mal de voir le PSG humilié? Ça, c'est un nouveau point de débat que des supporters ont maintenant. Je l'avais depuis plusieurs temps, mais là, ça commence à me rejoindre. C'est-à-dire un gros échec, vraiment, un échec catastrophique qui n'est pas juste une élimination du thème de Ligue des Champions, mais une claque totale dans la saison pour peut-être réagir. C'est, voilà, on en est là, parce que le pire PSG, je pense, parce que c'est le pire PSG QSI, oui, le pire PSG depuis Paul Le Guen.
Donc on remonte assez loin. Depuis Camboire, hein, Camboire, c'était t'avais quelque chose, les valeurs guerrières. Il manquait des choses au niveau tactique, mais t'avais quand même ces valeurs guerrières que t'avais quand même.
Oui, c'est ça. Mais Le Guen, c'était avant Camboire, et Camboire, c'était mieux, évidemment. Ah oui. Galtier, tu vois, on a donné des surnoms à tout le monde. Il y a eu Blanc l'accompagnateur, il y a eu Tourelle le sociopathe, il y a eu Emery la concurrence, il y a eu Pochettino, bon lui c'était un peu moins gentil, c'était Brochettino ou le gros porc, bon bref. Mais Galtier, c'est juste l'incompétent. Voilà, je pense que tout le monde sera plus ou moins d'accord. Il y a quelques personnes qui se mettent encore à défendre Galtier, mais sans défendre sa tactique, c'est-à-dire le défendre en disant c'est les dirigeants, il peut rien faire. Et ça, c'est le premier saut QSI. Sur tous les autres coachs, on pouvait ne pas aimer, etc., etc., mais il y avait toujours au moins une petite minorité ou pipe pour parler de points tactiques forts d'un coach. Pochettino, c'était il prépare bien les gros matchs de Ligue des Champions, etc., etc. Galtier ne peut plus être défendu. Et en fait, ce qu'on voit hier, même s'il n'a pas le choix avec tous les absences, le virus, etc., etc., ce qu'on voit, c'est encore un système où il repasse à 3 au bout de 20 minutes, il dit ça marche pas, il le dit en conférence de presse, oh, mais on espérait chercher leur piston, ça n'a pas marché, donc je suis revenu en 4-3-3, ça a été un peu mieux. Et du coup, tu te retrouves. Si tu regardes la saison avec Al-Shaddai, qui a 3 titularisations, c'est une fois arrière gauche, une fois défenseur dans une défense à 2, une fois défenseur dans une défense à 3. T'as Danilo Ké, une fois axe droit dans une défense à 3, une fois axe gauche dans une défense à 3, une fois 6, tout ça change au cours de match. Emery commence 10, il finit 6 en double pivot hier. Soler, il est trimballé dans tous les postes de l'attaque. Vitinho, qui avait joué 10 les dernières fois, cette fois-ci, il est mis 6 en début de match, puis de nouveau en double pivot en fin de match. Qu'est-ce que tu veux que les joueurs ils retrouvent? Je pense que les joueurs sont autant perdus que les supporters devant notre écran, et pire, le coach est autant perdu que les joueurs et nous-mêmes, puisque Galtier ne semble avoir aucune solution. et il le montre après un match, il nous le dit lui-même, hein. Je tire les constats, mais je ne trouve pas les solutions. Alors il nous disait, je ne tâtonne pas, mais je cherche. Je pense qu'il peut, il n'ose pas le dire, mais il tâtonne et il ne sait pas quoi faire. Donc voilà, Munich, on verra ce qui se passe mardi. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un miracle avec un Donnarumma qui nous sort 20 arrêts comme à Marseille et Monaco, mais même ça, ça ne suffit pas. Donc.
Et juste pour ajouter, c'est faut pas. Enfin, tu vois, le foot, il y a toujours des surprises dans le foot. Hein. On peut s'en sortir. Il existe un chemin pour s'en sortir contre Munich. Mais ceux qui ont l'espoir que tu passes Munich avec la manière, ben non, il y a un moment, il faut juste ouvrir les yeux. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas quelque chose à attendre de ce club dans cette configuration, autre que le fait d'avoir des stars qui te permettent des fois de t'en sortir. Le retour de Mbappé fera du bien, mais ça ne sera pas une solution.
Mais est-ce que, au vu de ce qui s'est passé hier, est-ce que Galtier ne paye pas son manque d'intégration du reste de l'effectif quand il pouvait le faire, quand, entre guillemets, le PSG allait beaucoup mieux. Et là, tout un coup, hier, il a lancé tous les jeunes en même temps. Et il n'y en a aucun qui a été vraiment préparé à tout ça. Et Garbi, il n'a jamais vraiment joué. Je comprends bien qu'il était forcé hier, mais pourquoi il n'a pas préparé tous ces joueurs à avoir plus de temps de jeu depuis le début de la saison?
C'est le truc. Après, tu vois, tu peux en épiloguer et puis tu peux à la fois faire sa défense. C'est-à-dire que pour Warren et Zaïre Emery a été, pour le coup, lui a été presque préparé. Les autres, pas tout à fait assez. Mais il s'est vraiment retrouvé hier soir. Il s'est vraiment retrouvé dans une configuration. Bah, sans le rappeler, il y a les absents effectifs pour des blessures mineures, majeures, pour des suspensions. Il y a ce virus de grippe qui fait que, et tu te retrouves vraiment dans cette situation. Et il s'est retrouvé à devoir titulariser beaucoup plus de jeunes que ce qu'il en avait l'intention. Après, il y a une dimension qui est la responsabilité. Alors, c'est la responsabilité du duo Campos-Galtier. C'est le fameux groupe réduit. Un groupe réduit, c'est très très bien quand tu te retrouves avec 20 joueurs et que sur les 20 joueurs, tu vas avoir deux potentiels, tout jeune potentiel, mais tu vas avoir au moins une base de 16 joueurs qui sont des titulaires en puissance. Et à ce moment-là, oui, avoir un groupe réduit, ça fait sens. Mais avoir un groupe réduit quand tu as 11 titulaires en puissance, et encore faut-il se demander si on a vraiment 11 titulaires en puissance, mais avoir un groupe réduit quand tu as 11 titulaires en puissance et sinon que des prospects ou des joueurs qui fondamentalement n'ont pas leur place sur un banc comme celui du Paris Saint-Germain, c'est juste se tirer une balle dans le pied. Et effectivement, dès que tu as des petits revers au niveau physique, au niveau de l'enchaînement des saisons, au niveau des trucs, tu te retrouves inévitablement très très limité. Après, pour sa défense, pour le coup, parce qu'il est défendable sur peu de choses. C'est pas l'homme que j'attaque. Hein. Quand je dis ça, je parle vraiment du coach. Il est défendable sur très très peu de choses. On a vraiment quasiment rien vu depuis le début de la saison. C'est la première fois, comme Bastien le rappelait, depuis très longtemps qu'on a à ce point rien. Hier soir, il y a vraiment une conjonction d'événements qui fait qu'il est peut-être un peu plus obligé de titulariser certains joueurs.
Depuis hier, il y a Caribbean Gentleman, oui. On était dans le live débrief Monaco, vous n'étiez pas là. Là, aujourd'hui, il demande votre avis sur Sacramento. Basto, je te laisse commencer.
C'est compliqué à savoir. Sacramento, on sait que c'était une cellule grise, voire même la cellule grise du LOSC de Galtier, notamment sur toute la partie animation offensive où il avait quartier libre. Et à partir du moment où il est parti, l'animation offensive de Lille s'était dilitée. Ensuite, il me donnait énormément d'idées à Mourinho, à Tottenham et à la Roma, notamment ce passage en défense à 3 qui a bien fonctionné pour Mourinho qui n'était pas un adepte. Donc il est considéré comme quelqu'un de très intelligent tactiquement. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais pas si soit c'est son côté humain, parce qu'on sait qu'il a des problèmes, donc au PSG, il est un peu mis de côté, etc. Mais en début de saison, il y a un truc, c'est qu'on voyait Sacramento donner les consignes aux joueurs sur le banc de touche, on voyait Sacramento souvent se lever, être debout sur le terrain, on a l'impression que c'était même Galtier entrait parfois. Depuis 2023, Sacramento, on ne le voit plus à l'image. Il reste assis au fond de son banc et tu as l'impression qu'il n'a plus rien en main. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec Sacramento, mais c'est un peu bizarre.
Ouais, je dirais même plutôt que 2023. Enfin, tu as l'impression que c'est dès le mois de novembre, en fait. Dès le mois de novembre. Enfin bon, après, on ne va pas épiloguer. Il faudrait
regarder. Je veux juste réagir sur ce qu'avait dit Dryas avant, sur l'utilisation des jeunes. Alors il y a juste un tournant, c'est Castle où il met aucun jeune, il met l'équipe type parce qu'il dit faut qu'ils enchaînent. Et d'ailleurs, depuis, tous ces titulaires ont plus ou moins des soucis physiques parce que c'était quelques jours après le voyage organisé en Arabie Saoudite. C'était peut-être pas une bonne idée. Sinon, pour oui, hier, il est plus ou moins obligé. Après, tu vois, par exemple, en y réfléchissant, mais c'est après coup, évidemment, mais quand tu as une défense avec Bernat qui n'est pas en forme, que tu remets Danilo de nouveau en défense centrale, ça fait longtemps qu'il n'y a pas joué, et que tu as Pembele qui joue son deuxième match après 6 mois de blessure, est-ce que tu es obligé de mettre El Shaddai dans ce contexte d'une défense totalement nouvelle, alors que tu peux mettre un milieu et un offensif de plus?
Oui, mais
tu le mets dans les pires conditions, là.
Complètement. Tu peux finir de la même manière que tu as. Enfin, tu peux commencer de la même manière que tu as fini. Pourquoi repasser à 3 en début
de match? Et en plus, il tue El Shaddai en le sortant à la mi-temps.
Ah, c'est toujours. Ça, on va en parler. C'est autre chose que les capacités de choix. Et oui, ça, c'est de l'assassinat en règle, mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Mais pourquoi tu commences à 3, etc. Mais pour moi, là, on est dans un autre débat. C'est-à-dire que on est vraiment sur est-ce qu'un autre coach aurait forcément fait mieux? C'est pas sûr pour le coup, compte tenu du groupe qu'il avait et compte tenu de la quantité de blessures. Mais oui, tu peux effectivement trouver des trucs. Mais il y a un axe là où tu peux un peu le défendre. On parlait de quoi juste avant? C'était ah oui, Sacramento. Sacramento, c'est l'énigme. Moi, j'ai pas d'infos et puis je pense que à part les gens qui sont en interne, n'ont pas d'infos. Basto a dit l'essentiel. Moi, c'est un coach que je connaissais pas si bien. J'avais vu le Lille, effectivement, le Lille de la première année de la galette, qui était vraiment sympa dans le jeu. Et puis que effectivement, quand ses adjoints, moi, je savais même pas qu'il y avait Sacramento dans le truc. J'avais juste compris que ses adjoints étaient partis. J'avais trouvé que le Lille c'était en train de devenir une caricature de lui-même. Même si ça les a menés à des succès sportifs, c'était ni vu ni à voir. J'ai pas du tout aimé ce Lille après le départ des adjoints. Donc j'étais enthousiasmé à l'idée de sa venue, mais même dès le début de la saison, même quand Basto faisait référence, il parlait, il disait des choses, il s'investissait. On voyait rien sur le terrain. Les questions sur Sacramento, elles datent pas de maintenant. Maintenant, comme le dit Basso, il règne par son absence. Mais au début, il était présent et tu comprenais pas ce qui se passait. Tu voyais des fois des trucs tentés que tu n'arrivais pas à comprendre, comme la position des centraux avec où mettre Ramos, où mettre Marquinhos. Tu saisissais pas tout, etc., etc. Et il y avait déjà des questions qui se levaient sur Sacramento. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. On n'arrive pas à voir ce qui se passe en interne. Les deux têtes que tu vois, c'est Galtier et Campos. L'autre est pas là et l'autre était censé être le génie tactique. Bon, là, c'est impossible de répondre parce que tu n'as pas d'infos en interne. Mais soit le mec est incompétent, soit il est mis de côté. Il n'y a pas d'autre rationalité. En fait, c'est tout bête, hein, mais quand il était à Lille, Galtier avait 3 adjoints que lui avait mis par Campos. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a récupéré le bout? Voilà, tout simplement. Peut-être que Sacramento, lui aussi, est tout fond et que c'était les autres qu'il fallait récupérer. Alors après, il y a, comme dit Rappelé Basso, il y a des trucs qui attestent que cette théorie est peut-être pas la bonne, avec notamment la relation, qu'est-ce qui s'est passé avec Mourinho. Mais à l'heure actuelle, du point de vue du Paris Saint-Germain, si tu oublies le contexte extérieur, Sacramento, c'est soit un mec qui est empêché, soit un mec qui est incompétent. Enfin, tu peux pas en dire plus.
Ok, les gars. Moi, il y a quelque chose qui me pose problème au Paris Saint-Germain et surtout avec Galtier, parce que le connaissant, je le trouve un peu méconnaissable. C'est toujours le mec qu'on a vu, entre guillemets, avec une grosse paire. Et j'ai l'impression qu'au Paris Saint-Germain, je ne retrouve pas le Galtier que je connais. Il fait exactement comme tous les coachs ils ont fait avant. C'est-à-dire se plier, entre guillemets, devant les 3 stars. Et moi, ma question actuellement, c'est, je pense qu'on sait tous qu'à la fin de la saison, Galtier va sauter. Donc moi, ce que je me demande, c'est Galtier, si tu sais déjà que tu vas sauter, au moins meurs avec tes idées. Parce que ce que je vois, je sais que c'est pas toi qui le fais. Si Galtier, son jeu, c'est 4-4-2. Ça veut dire que Galtier, à mon avis, s'il fait ce qu'il veut, il saute un des 3 devant. Là, il est obligé de les mettre. Mais moi, je dis, de toute façon, tu vas sauter. En fait, joue comme tu veux. Vous pensez vraiment que s'il faisait ce qu'il voulait, il garderait les 3?
Vas-y, Basso.
Vas-y.
Déjà, juste une chose, hein, c'est pas parce qu'un mec est fort en gueule qu'il est fort dans le pantalon. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Et Galtier, on le voyait de l'extérieur. Et effectivement, à Saint-Étienne, tu avais cette image-là de machin, de truc. Mais je n'irai pas aux conclusions. Galtier qui va sauter à la fin de la saison, t'en sais rien, Nix. T'en sais rien. La vérité, t'en sais rien. le PSG est exsangue financièrement, pas exsangue financièrement dans le sens où il n'y a pas d'argent, mais exsangue financièrement dans ses capacités d'investissement, renvoyer un coach, aller chercher un nouveau coach, etc. etc. Faudrait la catastrophe industrielle qu'évoquait Basto. Et là, on verrait, et peut-être qu'il se passerait quelque chose. Mais quelle marge de manœuvre aurait le Paris Saint-Germain à ce moment-là? On n'en sait rien. On ne connaît pas le futur. Et après, je voulais répondre parce que je voulais réagir sur le fort en gueule. Mais c'était quoi déjà exactement la question? J'ai oublié peut-être Basto.
En fait, la question, c'est pourquoi il ne veut pas mourir avec ses idées et faire ce qu'il a envie, parce que de toute façon, il va sauter.
Mais parce que des idées, est-ce que, enfin, tu pars du postulat que des idées, il en a. On n'en sait rien s'il a des idées.
Il en a. Galtier, on le connaît tous parce que déjà Galtier, il a jamais lâché son 4-4-2 à plat. Là ici, il le fait pas. On sait très bien que c'est sa formation. C'est sa façon de jouer.
Mais parce que son 4-4-2 à plat, c'est, en fait, si tu veux, c'est peut-être la seule chose qu'il connaissait et que fondamentalement, il disait bon, c'est comme ça. Et là, il va avoir des trucs on va lui dire de ci, de ça, et s'il essaye. Mais revenir au 4-4-2 quand de toute façon tu n'as aucune capacité à amener une cohésion sportive, tu vois, les idées, tu pars du principe que des idées il en a, que des capacités il en a, quasiment pas.
Déjà, Galtier, effectivement, gros caractère, grosse paire de, etc., etc. Il joue là-dessus depuis le début de sa carrière. Lui, c'est un politicien. Il continue au PSG à faire son politicien en coupe de presse, même s'il est perdu. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à son image. Et alors, ça a marché à Saint-Étienne parce qu'il était un peu, on en parlait moins. À Nice, on voit déjà que son image est un peu écornée. On voit déjà qu'il n'arrivait pas forcément à gérer un projet un peu plus haut avec Ineos. Ça s'est mal passé avec la direction, ça s'est mal passé avec une partie du vestiaire. Il a fait une deuxième partie de saison assez médiocre. Et il y avait tous ces problèmes de « il ment en conférence de presse »,« il est démago », etc. Donc tout ça, on le savait en soi. Et donc à Paris, c'est x10, x100 par rapport à Nice, malheureusement. Pour en revenir aux idées, oui, 4-4-2 peut-être de base, mais déjà, il n'y a pas d'ailier de débordement à Paris. Donc il ne pourrait même pas faire le 4-4-2 qu'il faisait ailleurs. Et de deux, son idée de base, il le dit, et c'était avec Campos. Alors, je ne sais pas si c'est Campos qui a eu l'idée, qui lui a dit à Galtier, tu joueras comme ça, ce qui est inquiétant, ou l'inverse, mais ils étaient clairement partis pour le 3-5-2. Et c'était l'idée de base, et puis finalement, il n'y a pas eu les recrues, etc., etc., etc. Alors, Galtier, s'il avait des idées, vu comment il change de système, etc., etc., c'est qu'il cherche quelque chose. Il cherche quelque chose, donc ça veut dire qu'il n'a pas une idée arrêtée, qu'il pense qu'il va fonctionner. Et maintenant, est-ce que mettre un Détroit devant sur le banc, etc., etc. Mais de toute façon, c'est beaucoup trop tard maintenant, parce que pour la première fois sous QSI, on a perdu la relation entre le staff et les joueurs avant même une élimination en Ligue des Champions. On a souvent eu ça post-élimination Ligue des Champions avec un PSG déjà champion de France, et il ne se passait plus rien sur le terrain, et c'était on est en vacances fin de saison. Mais là, on l'a aujourd'hui alors qu'on n'est pas champion. On n'est même pas assuré du podium et on est encore en Ligue des Champions. Et donc, c'est pas maintenant, s'il sort Neymar ou s'il sort Mbappé ou sort Messi, c'est encore plus mort déjà qu'il n'a plus le vestiaire avec lui.
Mais Basso, j'avais envie de te dire, tu vois, le truc, c'est qu'on parle beaucoup de systèmes, de 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3, je ne sais pas quoi, machin, bidule chouette. Un coach, c'est pas d'abord un mec qui est capable de trouver des solutions avec l'existant, indépendamment de la manière avec laquelle. Enfin, je veux dire, la base, le système, c'est quelque chose qui est là pour soutenir une animation. Donc, je veux dire, d'une certaine manière, un bon coach, le système, ça vient après. D'abord, c'est l'animation. Comment est-ce que mes joueurs jouent ensemble? Comment est-ce qu'ils vont se positionner les uns par rapport aux autres? Et ensuite de ça, tu vas trouver le système. Alors, tu vas avoir après des coachs critiques qui vont vouloir imposer leur système et puis avec des joueurs qui vont... Mais même dans ces coachs-là, tu vas avoir une animation. Et la problématique, c'est que justement, la seule réponse que Galtier est capable d'apporter, c'est la seule chose qu'il cherche depuis le début de la saison, c'est qu'il change de système. Il change de système, il essaye un système, ça marche pas, il passe à un autre système, ça marche pas, il passe à un autre système, ça marche pas, et puis maintenant il nous le fait 3 fois par match. Mais quand est-ce qu'il va commencer à se préoccuper de l'animation, qu'elle soit sans ballon, qu'elle soit avec ballon, comment organiser les réflexes?
Il peut changer autant qu'il veut, ça ne changera rien.
Tourelle, fondamentalement, les systèmes, on ne comprenait qu'à moitié. Mais tu avais, moi je n'aimais pas du tout, mais tu avais une animation défensive. Tu avais une base sur laquelle travailler. Et à partir de ça, tu vas construire un système, tu vas optimiser la relation entre tes joueurs par le système que tu vas mettre en place. Mais justement, Galtier, c'est juste les systèmes. Et alors nous, en tant que supporters, on entend ça.
Juste
je finis juste.
Non, parce que là,
On entend en parler parce que c'est effectivement ce qu'il dit en conférence de presse, mais c'est le problème d'après. Le problème d'avant, c'est comment faire en sorte que mes joueurs jouent ensemble. Et on a l'impression que c'est une question qu'il ne se pose pas. Elle n'est pas dans son logiciel. Et enfin voilà.
Juste parce que ça m'a tilté, t'as Malcolm qui dit, vous les anti-Messi, qu'est-ce que vous pensez du fait que Messi ne veut pas y aller ? Alors, tu parles à moi qui suis peut-être un des plus grands défenseurs de Messi depuis qu'il est au PSG, et Adrias qui dit que Messi est le meilleur joueur du PSG cette saison, donc je comprends pas trop la remarque.
Il a dit quoi, Malcolm ?
Ben, il a dit qu'on était des anti-Messi.
Ah bon ? Non, mais même, c'est... Enfin, si tu veux le penser. Next.
Les entraîneurs rêvent d'avoir trio Neymar, Messi, Mbappé, nous dit Sobouti.
Oh, certainement pas. Certainement pas. Et aucun entraîneur ne peut souhaiter ça. Les entraîneurs ont envie.
Galtier, je pense qu'il était content d'avoir les trois.
Moi, non.
De base, t'arrives, tu dis...
Les gars, je vous dis quelque chose de clair et net. Demain, on se débarrasse de Galtier, on ramène Guardiola. La première chose qu'il fait, il pète le trio de devant. Moi, je vous le dis, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a aucune hésitation. Il pète le trio.
Et moi, je te dis que une des raisons pour laquelle il ne vient pas, c'est qu'il ne peut pas péter le trio.
Bah oui, c'est ce que je te dis. Dans tous les cas, le grand coach qui veut venir, il va le péter le trio. Donc, s'il vient, c'est qu'il aura l'assurance que le trio, il saute. Donc, on en revient au même truc.
Et pour revenir sur Pochettino, quand Pochettino, il se rend compte qu'il n'aura pas la main là-dessus, il veut partir, il y a les rumeurs Manchester, puis finalement, il est obligé de rester, blablabla, blablabla. Effectivement, un coach cohérent, il arrive au Paris Saint-Germain, il cherche à partir parce qu'il se rend compte qu'il a signé au mauvais endroit. Et ça se joue, entre autres, sur le fait que tu dois mettre les bijoux de la famille en avant.
Il y a Raoul qui nous pose une question intéressante. Il nous dit, avec l'entrée de Kimpembe à la 79e, Marquinhos est monté au milieu. Est-ce une volonté de Galtier par rapport à mardi, du coup, si c'est juste Marquinhos qui a pris des initiatives?
Ce serait trop tôt. Tu peux pas partir là-dessus à trois jours d'un grand rendez-vous. Kimpembe a le corps pour assumer une titularisation pareille? Ce serait peut-être une nécessité, mais en tout cas une belle connerie que de le faire, parce que il a pas le corps pour assumer 90 minutes de duel en intensité super haute. C'est un risque de blessure qui est juste monstrueux. Après, bah oui, peut-être que Galtier a vu que sous Tourelle, il y avait eu ça, etc., etc., et qu'il s'est dit, tiens, une idée à creuser, ou peut-être que c'est juste le joueur. Pour être honnête, moi la deuxième mi-temps, il y a un moment où j'ai lâché, je regardais mon téléphone parce que c'est t'en as marre, donc j'ai pas forcément vu Marquinhos en train de monter. Si Marquinhos l'a fait de sa propre initiative, peut-être Basto, toi t'as mieux vu. Moi j'ai regardé ses fomblards, quoi. Mais
je finis avec Danilo qui sort, Bichabou est sorti, j'ai pas l'impression qu'il y avait un autre blessé. Pembele sort aussi.
En tout cas,
on a bien eu Danilo qui était décédé sur le troisième but, qui est à 50 mètres derrière, au milieu. Donc pourquoi pas. Mais non, je pense que c'était plus du dézonage. Et de toute façon, Kimpembe ne pourra pas jouer mardi. Il a joué 20 minutes en 6 mois, il va pas le mettre.
Les gars, hier soir, on a vu aussi quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment au Paris Saint-Germain. On a vu plusieurs conflits sur le terrain. On a entendu qu'il y avait des conflits à la fin du match, entre Campos et les Brésiliens notamment. Ce serait pas peut-être une bonne chose, parce que je vois que tout le monde dit que c'est négatif, mais est-ce que ce serait pas une bonne chose que ça commence à s'embrouiller pour trouver à la limite des solutions et arrêter de vivre dans le pays des bisounours où tout va bien, comme il aime très bien nous dire.
Le problème, c'est que si tu t'embrouilles, ça peut effectivement être une chose positive, mais s'embrouiller, c'est aussi une manière de mettre la responsabilité sur l'autre plutôt que d'assumer sa part de responsabilité dans l'histoire. Il y a tellement de choses à dire en fait sur ce sujet. Il faut vraiment se souvenir du début de la saison et de cette année, ce ne sera pas pareil. Cette fois, ce n'est pas Nasser qui a tenu le discours, c'est notre newly appointed directeur en football qui a dit les passes droits c'est terminé et machin. On a eu le nombre de voyages, le nombre de trucs, le nombre de petits accommodements qui machin, qui bidule, etc. Le Neymar, là maintenant il y a les rumeurs qui montent. Bon, après les rumeurs elles montent juste avant un match de Ligue des Champions et au moment où ça va mal, de tout le voisinage qui en peut plus, le machin, le truc. Après, t'as des tensions et moi je participe pas de cette lecture en fait. T'aurais des tensions, t'aurais besoin justement de ressouder, de remettre. Et là, c'est juste sa gueule, ses machins, ça se tire la couverture vers lui. Et non, il n'y a rien à en entendre de positif, à mon avis, de ces tensions qui semblent apparaître.
En fait, ce serait positif si ça restait dans un cadre privé avec une discussion.
Et, ouais, mais une discussion franche.
Trouver des solutions.
Mais une là, discussion franche, Basto.
Oui, pas, non, mais bien sûr. Mais là, ce qui se passe. Coup, un mec qui attends, gueule, mais laisse-moi finir de parler. J'ai pas fini. Mais là, ce qui se passe, c'est que tout est fait d'une question d'ego et de point de vue personnel et non pas d'un point de vue collectif. Quand tu vois Neymar, ça, je l'avais pas vu, mais c'est l'équipe qui l'a relevé ce matin. Effectivement, c'est trouvable sur les images Canal. Quand tu vois Neymar qui, pour continuer à pourrir Vitinha, parce que Vitinha ne lui a pas fait la passe, fait une passe en retrait de 40 mètres derrière lui pour pouvoir continuer à pourrir Vitinha et n'attend pas un temps mort, c'est que déjà, il est dans le désintérêt du jeu. Quand Campos vient à la mi-temps gueuler alors que c'est le moment où il n'y a que des U17 sur le terrain, etc., etc., est-ce que c'est le bon moment? Non, c'est juste Campos qui pète un câble. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, le PSG ne fait pas mieux, loin de là, fait même peut-être une deuxième mi-temps pire, puisqu'on ne frappe pas une seule fois dans la deuxième mi-temps. Et à la fin du match, t'as Campos qui en met une couche et Neymar et en disant que c'est un manque d'agressivité, Neymar et Marquinhos qui sont pas contents. Et a priori, ça a gueulé tellement haut, même sur le terrain, hein, les joueurs qui s'insultaient, que les Monégasques ont été surpris de la virulence. Donc là, on n'est pas dans une discussion à plat, on est vraiment dans des joueurs qui sont en train de défendre leur petite paroisse et qui sont en train de pouvoir défendre le steak dans ce qui va rester derrière, parce que il y a plus d'équipe.
J'aimerais réagir à pas mal de commentaires que tu viens de faire passer qui disent que vu la situation, Messi va pas prolonger. La question qui se pose, ouais, Messi, c'est vrai que c'est une question, mais la question qui se pose en sous-texte, c'est pas tellement concernant Messi, hein, c'est plus concernant Mbappé. Est-ce que vu la situation, est-ce que Mbappé va pas dire au Paris Saint-Germain, bah, soit vous me vendez maintenant, soit vous me vendez gratuitement dans un an.
Il y a Gabriel qui dit que tu as un ego surdimensionné. Tu n'as pas vu passer ce commentaire, je pensais que tu allais réagir à ça.
Il dit quoi? Eh ben, j'ai pas vu.
Le gars de gauche a un ego surdimensionné, il ferait mieux de se remettre en question.
Ah d'accord, ok. Bah, c'est pareil, t'as le droit de le penser, il n'y a pas de souci.
Ok les gars, pour rester sur le sportif, il y a encore pas mal de choses à aborder. On va parler du cas Marquinhos, parce qu'hier encore sa déclaration, elle est terrible. Comment il peut être encore notre capitaine? Le mec... Déjà, il dit aux joueurs de pas aller saluer les supporters parce qu'ils sont fâchés. Ok, d'accord. Bah, t'as beaucoup de coronesses, Marquinhos, déjà. Deuxièmement, en interview après match, il te dit « Ouais, mais en fait, nous, on laisse nos familles pour venir jouer. Le mec, tu vas toucher 18 millions par an. Les mecs qui sont dans les tribunes, qui sont venus te voir, ils ont également laissé leur famille pour venir te voir. » Eux, ils ont payé. Si ça se trouve, ils ont même posé un jour de congé. Et toi, tu as le culot de sortir des choses comme ça. Moi, je vous laisse avec Marquinhos et je vous laisse réagir là-dessus.
Même pas de réaction. Le mec, on s'apprête à le prolonger pour qu'il soit le deuxième défenseur le mieux payé. Il répond pas présent sur le terrain. Il n'a pas le leadership attendu sur le terrain. D'une manière générale, il faillit. Alors, de temps en temps, il fait des matchs qui tiennent. Bref, c'est juste, on rentre dans la catégorie de ce que tu disais avant, c'est-à-dire c'est taper sur l'autre pour éviter que sa prestation médiocre soit mise en avant. Il n'y a rien d'autre à en dire à mes yeux.
Il y a juste un message aussi qui demande pourquoi vous n'êtes pas avec nous au camp des loges quand ça doit bouger. Ben, moi, pas tout simplement parce que j'ai pas envie de perdre 4 ou 5 heures de mon temps à me battre pour ce club qui ne me représente plus vraiment. Donc j'ai plus ou moins lâché l'affaire. Si Qatar devait partir, tant mieux, mais j'y crois même plus. Donc quand tu n'y crois plus, tu ne vas pas perdre du temps à aller prendre le RER à l'autre bout, etc. etc. Et puis surtout quand une partie des supporters qui sont représentés au parc sont sous la coupe du club. Donc c'est un truc un peu à chaque fois organisé, travaillé, mais c'est du flan, c'est pas comme Valence hier où t'as personne au stade, le stade se joue dans un huis clos et t'as tous les 50 000 supporters qui sont en dehors du stade à demander la démission du président. Ça c'est une action forte qui peut prouver à Paris, c'est bien, hein, ça bouge, je dis pas de mal, c'est la première fois qu'on va au camp des loges, mais on a vu par le passé, quand les joueurs sont venus face au mur de la honte après une attitude où on les a sifflés, on a dit « Thiago Silva, toi c'est pas bien, gna 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 ». Non, c'est ridicule souvent, donc pour moi ça n'en vaut pas la peine.
Moi ouais, je retirerai juste le mot ridicule, mais c'est, enfin grosso modo, je suis d'accord avec toi, C'est bien que ça existe, mais comme le rappelle Basto, il y a une espèce de d'épée de Damoclès sur le cup, c'est on vous accepte si on vous laisse vous comporter en étant debout et en train de chanter pour pas que ça devienne comme Boulogne est devenu, si. Et le Paris Saint-Germain peut à tout moment retirer la condition et dire bah non, finalement vous êtes plus bienvenus et puis basta quoi. Donc il y a ce rapport-là qui est étrange. C'est tout, en fait tout. surtout avec le Qatar et un rapport de pouvoir, en fait, tu te rends compte petit à petit en interne que tout est un rapport de pouvoir et de relations personnelles. Et il n'y a pas de choses qui sont posées dans des textes où les textes prévalent sur le truc et les règles sont toujours floues. Et la relation entre le Paris Saint-Germain et les supporters subit aussi cette dimension-là.
Moi, pour répondre, vu que c'est moi qui ai programmé le live, moi, je pense que chacun doit faire avec ses armes. Et moi, je trouve que pour essayer de changer les choses, l'arme que j'ai choisie, c'est quand j'ai créé ce podcast pour faire du bruit au maximum possible et évoquer des sujets qui ne sont pas abordés dans la presse d'un point de vue de supporter du Paris Saint-Germain. Donc moi j'apprécie, d'ailleurs on a certainement Barry qui est là-bas parce qu'il avait prévu d'y aller, mais moi je trouve que mon arme ce serait plus d'utiliser un peu YouTube, etc. Bon, on va passer à la suite. Il y a Sue Beauty qui nous dit « Vous vous rappelez du 8-2 face au Bayern
?» J'y pensais hier.
ça vous fait pas peur? moi je pense pas qu'on va se prendre au score comme ça, c'est quasi impossible.
Non. Non, je pense pas non plus, mais...
Le Bayern est un peu moins machine qu'il l'était à l'époque.
Ah ouais, c'est ça, c'est
surtout pour ça. Mais ça reste possible, hein. Encore une fois, faut vraiment avoir conscience que hier contre Monaco, quoique Monaco aurait peut-être arrêté d'attaquer autant si les balles étaient rentrées, tu n'as pas un immense Donnarumma hier, la mi-temps, tu l'as fini il y a 4 buts. Hein.
Juste pour ajouter un truc sur Marquis, au lieu de cet éclat, il y a son comportement surtout, même si je ne peux pas faire un parallèle parce que je n'ai pas parlé tout à l'heure de Marquis, c'est notamment sur le deuxième but, quand même si c'est El Shaddai qui fait l'erreur, Marquis ne lui propose pas une seconde, une solution de passe alors que l'action dure 10-15 secondes et Marquis ne vient pas couper. Donc c'est pas un comportement de capitaine. Et puis il y a cette lâcheté à la fin où il ne va pas voir les supporters. Il dit même à Donnarumma, n'y va pas, ils sont énervés, Donnarumma ne l'écoute pas et va les voir. Mais donc il y a un capitaine qui refuse son rôle. Au-delà des déclats.
Et je voulais réagir à ce que disait Vincent. Vincent, il est toujours dans les mettez les trois joueurs de devant et mettez Verratti. Non, c'est Vincent. Enfin, fais des recherches. Cite-moi un club d'Europe où tu vas avoir trois stars devant. Et non, ça te grève parce que tu as trop de joueurs qui ne participent pas au jeu sans ballon. Mais encore une fois, ça c'était une excuse qui marchait pour avant. Là, on est au-delà de ça, dans le sens où tu n'as même pas d'animation avec les quelques joueurs qui te restent, alors que tu avais ça avant. Mais non, objectivement, avoir trois joueurs qui sont moins impactés à la récupération du ballon, même si Neymar en fait un peu plus en Ligue des Champions, mais en avoir trois qui cherchent en plus où il y a tout à coup ce débat, avoir la lumière sur moi, bah ça n'a pas marché au Paris. De la même manière, ça ne marchait pas au Real, même si au Real, ils avaient quand même un peu plus d'intelligence, ils ne les mettaient pas tous devant, ça ne marchait pas au Real et ça n'a jamais marché dans le foot. Et c'est pour le coup, c'est juste objectif. Il suffit de regarder ce qui s'est passé, ce qui s'est passé depuis toujours, quoi. Ça ne se fait pas, ça ne marche pas.
Non, mais en fait, ce qui me fait rire dans les commentaires, c'est qu'à chaque fois, genre, vous avez vos favoris. Et entre guillemets, quand on parle de vos favoris, vous dites « et les autres ». Comment tu peux dire que nous, on dit jamais rien sur Neymar? Je suis désolé. Tout le temps, en fait, tu peux me dire ça peut-être sur un autre joueur. Mais sur Neymar, sur Messi, il y en a dans les commentaires, ils nous disent qu'on est une chaîne anti-Messi, anti-Neymar. Toi, tu nous dis « on ne parle jamais de Neymar ». Au final, vous voulez qu'on fasse quoi exactement? On ne peut pas satisfaire tout le monde, les gars. Nasser, il est où? Par contre, Dryas, ta caméra, elle bouge plus depuis tout à l'heure.
Je viens de découvrir que j'étais anti-Messi et que je n'osais pas toucher à Neymar. C'est pas mal, ça. C'est quand même pas mal.
Oui, mais par rapport à ce que tu
dis... Tu dois être trop gâtier aussi.
Nix, on défend ce qu'on pense, tout simplement. Et moi, ce que je pense, c'est pas anti-joueur. Enfin, tu vois, je ne parle pas des joueurs en tant que des hommes. Je parle des joueurs en tant que des joueurs de foot. Et à l'heure actuelle, au niveau joueur de foot, les joueurs n'apportent pas satisfaction et on est juste dans un rôle d'observateur et on va le nommer. On n'est pas là pour défendre un joueur par principe ou pour l'attaquer par principe. On n'est pas dans cette logique-là, quoi. Point barre.
Ok. Bon, Darès, on voit toujours pas ta tête. On va parler de Charlie parce que vous...
Si, on la voit.
Ah ouais, c'est chez moi alors que ça bug. Ok. Bon, El Shaddai, vous vouliez en parler tout à l'heure. Vous disiez que Galtier l'a tué. Vous voulez élaborer là-dessus?
C'est un assassinat en règle, je veux dire. C'est ton joueur, Basto l'a tout à très bien expliqué tout à l'heure, ton joueur, tu ne dois pas forcément le titulariser, tu es peut-être un peu obligé de le titulariser, pourquoi tu le titularises dans une défense à 3, etc. Tu as toutes ces questions-là. mais il fait une énorme erreur. Il fait une énorme erreur, etc. Le joueur, il a forcément la tête dans le guidon. Tu le sors dans la mi-temps, il est le premier joueur qui sort, et surtout la sortie qui est en mode sanction, c'est-à-dire tu le sors pile à la mi-temps, ben, inévitablement, ben, le joueur il va juste macérer dans son erreur encore plus longtemps, parce qu'il n'est pas là, il n'est pas là en mode soutien, surtout qu'en plus, a priori, tu apprends après coup que ça a hurlé et, sans faire semblant à la mi-temps, et à la suite de ce hurlement, ben, c'est juste El Shaddai qui sort. Enfin, c'est Tu retires de 6 mois le moment où il va se remettre de son erreur, en fait.
Et j'ai lu aujourd'hui dans la presse, à savoir si c'est vrai, mais que le club, enfin le staff, est très déçu globalement des jeunes cette saison, à part Zaïre Emery, au niveau qu'ils attendaient beaucoup plus. Mais de quoi ? Comment t'en es pas l'entraînement, mais comment tu les utilises aussi, enfin bref. S'ils s'attendaient déjà que ce soit des titulaires ou des mecs prêts à être, c'est qu'ils sont fourvoyés aussi là-dessus. Hein. Parce qu'El Shaddai, c'est quelqu'un qui doit être prêté pour s'aguerrir dans un club de milieu de tableau ou bas de tableau de Ligue 1, ça on le sait.
Mais il a 17 ans, hein. faut
bah, peut-être oui, bien sûr. Il est juste pas prêt pour le PSG actuellement, mais il le sera prêt dans 2-3 ans.
Et pas prêt pour le PSG dans une période... pas prêt, faut voir ça. Parce qu'il n'est pas prêt pour le PSG dans une période de turbulence, à un moment où tu as tous les titulaires qui sont pas là, ou à un moment où tu es encore...
Ouais, et encore, comme Strasbourg et tout, qui fait de bons matchs. Ouais.
Mais dans tous les cas, ne le sors pas en premier. Tu vois, tu attends la 65e, 70e, et au moment où tu vas faire un autre changement. C'est juste, ne va pas donner la personnification de l'échec de la première mi-temps à un gamin de 17 ans. Pour moi, inacceptable ce qu'a fait Galtier sur ça. Après, est-ce que c'est lui qui l'a fait ? Est-ce que c'est Campos qui est revenu dans le vestiaire et qui s'en est pris à El Shaddai ? On ne saura jamais. Mais bon, dans les faits, c'est Galtier qui l'a sorti. Et pour moi, c'est inacceptable ce qu'il a fait.
Ok. Bon les gars, ça fait 35 minutes qu'on parle du côté terrain sportif. Là, on va passer à le point de rupture côté direction, côté orientation du projet. J'ai fait un short hier, un short c'est le genre de TikTok sur YouTube, qui disait que, entre guillemets, là le projet PSG, on veut gagner la Ligue des Champions, en fait c'est terminé. Parce que là, tu arrives à un stade du projet où il n'y a aucun grand coach qui va venir au Paris Saint-Germain parce qu'ils savent que, entre guillemets, c'est inentraînable. Il y en a un seul grand coach qui pourrait venir, et à la limite, à mon avis, il va venir juste pour casser et faire le bordel. Et ensuite, il va prendre son chèque et va se barrer, c'est Mourinho. Sinon, les grands joueurs, chaque année, ils voient bien que c'est un cirque et qu'on se prend des remontadas chaque année et que ça ressemble à rien. Donc eux non plus, s'ils viennent, ça va être que ceux qui aiment l'argent. Et du coup, on va se retrouver avec le même problème qu'on a tout le temps.
Et puis, tu peux rajouter les jeunes prospects comme Vitinha, ils vont peut-être plus choisir le PSG à force quand ils voient comment ils sont détruits par le
c'est ça. Club. Ça aussi. Ceux qui vont venir pour l'argent, bah du coup, on va avoir les mêmes problèmes. PSG, Marseille, il n'y en a aucun qui va mouiller le maillot parce que ça ne veut rien dire pour eux. Il n'y a aucun affect, rien du tout. Ils ne veulent même pas défendre l'institution. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans les années, enfin dans les mois et dans les années à venir, et que faire pour remédier au problème ?
Bah, déjà, tu vois que tu donnes 18 millions à Marquinhos pour le prolonger. Deuxième défenseur le plus payé au monde après l'année qu'il fait. Tu as prolongé Verratti, qui fait une de ses années les moins bonnes. Tu veux prolonger Messi. Bon, Ramos, c'est pas encore fait, mais rien que le fait d'y penser, c'est un problématique. Messi, tu veux. Messi veut peut-être pas, c'est peut-être lui qui va nous libérer. Donc déjà, le club ne veut pas changer de stratégie là-dessus. C'est toujours l'image, le marketing. Je pense que le sportif va rester secondaire. Maintenant, j'ai vu dans les coms des gens qui nous disaient, on parle pas de l'émir qui veut racheter United. On en a déjà parlé, mais si, l'émir veut racheter United. Et je pense que oui, la priorité du Qatar, même si ce sera pas la même entité, c'est eux qui mettront le blé, ira à United. Que Paris va être petit à petit une équipe secondaire, toujours l'objectif de gagner le titre, mais alors gagner avec des champions, aller construire une équipe cohérente, jamais. Et puis si ça marche pas, ils s'en foutent déjà, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Ils perdent de l'argent à Paris, il faut le dire. Ils perdent de l'argent, je vois pas pourquoi ils vont aller investir et surinvestir. Ils ont valorisé le club avec le centre d'entraînement, ils peuvent le valoriser encore, mais on est dans un désengagement progressif. Non, je pense clairement qu'on est dans même le fait de vouloir vendre 10 à 20% des parts de Paris, ça montre qu'il y a quand même une volonté, de gagner du blé parce qu'ils n'arrivent plus avec Paris. Et l'argent, ils préfèrent le mettre à United.
Alors très rapidement, j'ai vu passer un commentaire qui disait que la défense de Munich, c'était pas si fort. Ouais, mais l'attaque du Paris Saint-Germain, c'est bien plus faible que ce qui est fort, qu'est-ce que faible la défense de Munich. Donc la problématique reste la même. Pour revenir sur juste ce que tu dis, pour moi, tu es vraiment dans la projection. Paris, faut se rendre compte.
Parce qu'on nous a demandé comment vous voyez, quelle est votre projection.
Non, mais je suis en train de te répondre, Basto.
Oui, on est dans le fantasme, quoi qu'il arrive.
Oui. Ah, de toute façon, on est dans le fantasme. Mais Paris qui se désinvestit 10-20%, c'est juste pour diluer les investissements. Paris ne perd pas d'argent à cause du Paris Saint-Germain. Paris a fait un investissement sur le Paris Saint-Germain, dont il a récolté les fruits par la Coupe du Monde, par le soft power, blablabla. Donc dire qu'ils perdent de l'argent, c'est oublier tous les bénéfices qui sont intangibles, parce qu'il y a aussi les bénéfices tangibles avec les maillots, les machins, les bidules, les PSGX Jordan aux États-Unis, t'inquiète pas, ça, ça rapporte de l'argent.
Ça fait partie des bilans comptables.
Il y a aussi tout, oui, mais il y a aussi tous les bénéfices intangibles qui, eux, font pas partie du bilan comptable, qui, eux, rapportent énormément d'argent au niveau Qatar. Au niveau notamment, enfin si on après on va pas développer, mais notamment la vente du gaz à l'heure actuelle, c'est un des grands sujets. Et ils auraient eu des contrats de toute façon, mais ils ont des contrats qui sont facilités avec tous ces trucs-là. Pour après, le Paris Saint-Germain, la grande question par rapport à ce que Basto posait au début, c'est le grand débat, et en fait, on n'est pas allé au bout. Est-ce qu'il faut souhaiter que le Paris Saint-Germain se rétame pour qu'il y ait une véritable prise de conscience? La vérité, c'est que c'est pas ça. C'est est-ce qu'il faut souhaiter que le Paris Saint-Germain se rétame pour voir si la prise de conscience est quelque chose de possible? Parce que si tu as une catastrophe industrielle pour que on change quelques hommes, comme on a toujours fait, mais pour fondamentalement retrouver la même chose sans vraiment s'attaquer au fond du problème, bah tu sais qu'il n'y a pas d'espoir. Et contrairement à Basso, moi je pense pas que le Paris Saint-Germain va partir. Je pense que le Qatar va partir du Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris Saint-Germain pour le Qatar, c'est une véritable poule aux œufs d'or. Ça n'empêche pas que la Première Ligue soit aussi une poule aux œufs d'or, mais ils ont besoin de ce pari, de cette image, de machin, des bénéfices. Moi, je pense qu'ils vont rester.
Oui, mais tu réponds pas non plus à la question. C'est que un désengagement, c'est pas forcément partir, c'est continuer de mettre de moins en moins d'argent, parce que de toute façon, ils auront les bénéfices.
Là-dessus, non, parce que tu es limité de toute façon par le fair play financier. Tu n'aurais pas eu le fair play financier, l'histoire aurait été complètement différente. Paris est limité dans la quantité d'investissement qu'il peut faire par rapport à ses revenus. Et là-dessus, on est limité par les stars qu'on a, par les salaires qu'on donne à certains joueurs.
Il y a un sujet sur la Super League.
Etc. Et donc, on se retrouve de facto limité. Alors que quand tu es en Première Ligue, tu n'as pas ces limites-là parce que tu as des droits télé qui sont tels qui te permettent de faire ces investissements. Mais le désinvestissement, je veux dire, vendre 10 à 20% d'une part, ce n'est pas pour autant se désinvestir. C'est juste avoir vendu 10 à 20%. T'es actionnaire majoritaire dans des proportions qui sont énormes. Vend 49% et on en reparle. Mais on en est très loin.
Bon, je vois que dans les commentaires, ça veut vraiment parler de Campos. Avant, on va attaquer Nasser tout à l'heure. Je pense que je l'ai déjà dit précédemment, mais est-ce que vous pensez que Campos, il ne s'est pas trompé de club? Si. Est-ce qu'au Paris Saint-Germain, par exemple, il n'a pas fait le recrutement qu'il devait faire pour Celta Vigo, par exemple? Parce que on est clairement... Comme j'ai dit la dernière fois, Campos, c'est un mec qui va loin dans le recrutement des joueurs. Et normalement, il a ses histoires de cases et de A, B, tout ça là. Mais moi, je trouve qu'il n'a pas assez pris en compte l'aspect mental dans les joueurs qu'il a recrutés. Parce que avant même ce qui se passe maintenant, les supporters de Naples nous disaient déjà que Fabien Ruiz au PSG, ça allait être un flop. Parce que déjà, à Naples, c'était pas un mec qui, les deux dernières années, qui était au sommet de son art. Carlos Soler, c'est un mec, ça se voit qu'il n'a pas grave la personnalité sur le terrain. C'est un bon joueur de football, voire très bon joueur de football. Mais est-ce que vous pensez que Campos, il a pris la mesure de ce que c'est que de jouer au Paris Saint-Germain? Parce que pour moi, si tu prends 10 bons joueurs qui jouent au football actuellement, il y en a peut-être 2 sur 10 qui peuvent réussir au Paris Saint-Germain. C'est un club très spécial. Et c'est pas n'importe qui peut jouer au Paris Saint-Germain.
Campos a besoin d'un facteur qui est le temps. Et à Paris, tu n'as pas le temps. Campos, c'est un joueur qui, c'est un coach, un directeur sportif.
Directeur sportif.
Voilà, merci. Qui fait des paris sur des joueurs, qui fait des paris en se disant celui-là il va évoluer comme ça, il fait des achats et des fois il se plante, hein, il s'est planté ailleurs et puis ensuite de ça il fait des reventes, etc. Mais il a besoin de temps, il a besoin de se retrouver dans un club où tout ne sera pas scruté à la moindre minute, où les résultats ne sont pas forcément attendus à l'instant. Et il est pas compatible. Le truc, c'est que tu vois, ce serait complètement ridicule de faire un procès en incompétence de Campos quand tu vois les succès qui ont jalonné sa carrière, qui sont tangibles. Mais c'est juste, il est pas taillé pour le Paris Saint-Germain. Un directeur sportif qui était taillé pour le Paris Saint-Germain, c'était Antero Henrique. C'est un directeur sportif qui a un cigare, tu vois, qui va parler, qui est machin, qui parle de trucs, qui va utiliser parfois peut-être des méthodes un peu mafieuses, mais qui va arriver à des résultats de cette manière-là. C'est pas quelqu'un qui est dans l'orfèvrerie de qu'est-ce que je peux faire si, etc. Tiens, on va essayer ça. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des A', B', C', etc., etc. Ça, c'est un système qui marche très bien bah, quand tu as le temps. C'est-à-dire que tu as pris un mec qui était B pour accompagner l'équipe et tu prends ensuite un mec qui est là pour porter l'équipe, mais tu prends un A' aussi qui va se développer parce qu'il aura le temps, etc. etc., etc. Et là, quand tu achètes Ruiz Soler, bah, c'est juste Campos qui est en train de se dire « Mayday, Mayday, je ne recrute pas, j'y arrive pas avec la surface financière, avec les enjeux, avec les attentes. » Et il fait des achats paniques. C'est littéralement des achats paniques. C'est-à-dire que tu dois trouver quelque chose, et bah tu trouves quelque chose. Mais c'est pas où tu essayes de construire, où tu essayes d'anticiper la suite. S'il était dans un club avec moins de visibilité, bon, peut-être pas qu'il aurait pu toucher Ruiz et Soler, mais en tout cas des joueurs de ce calibre-là, il les aurait fait venir la première année. Les choses n'auraient pas été regardées de cette manière-là. Ça aurait été des échecs parmi les autres succès. Quoi. Il n'est pas taillé, il n'a pas les épaules.
Ce qu'il faisait à Monaco Lille, c'était clairement du trading. Et en fait, Monaco Lille se retrouvait avec 60 joueurs sous contrat, c'est-à-dire qu'il achetait vraiment des tonnes de joueurs. Et donc, dans l'eau, évidemment, tu vas retenir les Osimhen, les Jonathan David, les Bernardo Silva, les Fabinho, qui sont des grandes réussites. Mais dans tous ces lots de joueurs achetés, tu en as aussi beaucoup qui n'ont rien fait, qui ont floppé, qui sont maintenant dans des divisions inférieures ou dans des championnats mineurs. Le problème, c'est que déjà, quand il arrive à Paris, il est dans un projet de réduire l'effectif, ce qui est contraire avec tout ce qu'il avait fait avant, où justement, ils avaient un effectif pléthorique et c'était faire du trading là-dessus. Donc là, déjà, il change de... Ça ne va pas vraiment avec ce qu'il fait d'habitude. Derrière, on voit qu'il n'a pas l'habitude de négocier des joueurs comme Nadir Reyes qui vont apporter tout de suite. Si on continue à avoir des rumeurs comme Jordan Bakayoko qui est remplaçant Eindhoven, oui, c'est bien pour Lille. Hein. Tu laisses du temps 1 ou 2 ans à Paris, tu dois être performant tout de suite. On n'a pas le temps. Il n'a pas refait les fondations. Comme je le disais, il s'est occupé dans un dernier live, il s'est occupé du décor plutôt que les vraies fondations. Alors que ce qui manque, c'est déjà solidifier le 11 avant d'avoir un bon convenable. Et il se trompe de club de base déjà quand il prend Galtier comme coach. Je suis désolé, Galtier, c'est un coach Europa League au mieux. Je l'ai déjà dit assez. Tu prends Galtier, c'est que tu ne prends pas conscience d'où tu es.
Juste pour rajouter, pour réagir à un commentaire, on ne dit pas que Campos ne recrute jamais de bons joueurs. C'est juste qu'il va recruter et des bons joueurs, et des prospects, et des joueurs moyens qui vont servir à l'esprit, et aussi des prospects moyens, etc., etc., etc. On ne dit pas que Campos n'a jamais recruté de bons joueurs, le moins de temps. Et juste pour réagir à ce que tu disais, Galtier, c'est pareil, tu vois, tu avais cette espèce de truc où quand il était à Lille, il était dans son univers. C'était lui qui choisissait A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Et donc, il a mis Galtier un homme peut-être, enfin, ça c'est un présupposé, mais qui est peut-être un homme à tout faire. Et puis, il lui a mis des adjoints dans les pattes qui permettaient d'organiser le truc. À Paris, il n'a pas cette liberté-là. Il est obligé de composer avec une direction qui a les yeux qui vont vraiment regarder j'aurais aimé voir
j'imagine très bien
mais voilà, une direction qui va regarder dans le détail des affaires, et il a pas la même latitude pour travailler, il n'a pas le même temps pour travailler. C'est juste une erreur de casting. Alors après, il y a une surévaluation de ce qu'est Campos, comme l'a rappelé Basto. Il y a Campos, il y a beaucoup de succès, mais il y a aussi des échecs. Hein. Faut pas, il y a de tout en fait. C'est une tonne de joueurs et beaucoup de mouvements. Mais à Paris, ça peut pas marcher. C'est à Paris aussi, maintenant.
Il est aussi au-delà du sportif et du fait qu'il fait tout dans l'anticipation, dans la dernière semaine mercato d'hiver, etc. Il y a aussi la communication qui est désastreuse sous Campos. Hein. Ah, je ne jamais en cause, c'était la faute d'Henrique. Maintenant, tout allait bien il y a une semaine. Maintenant, il va engueuler les joueurs parce que lui, il y est pour rien, évidemment.
Ah bah, Basto, il y a. Il y a quelqu'un qui est trop simple. Il a dit Gatier, c'est l'équivalent de Rudy Garcia. Il me semble que tu l'as déjà sorti, celle-là.
Gatier, c'est pire que Rudy Garcia. Rudy Garcia a bien plus prouvé que Gatier. Il a fait le doublé championnat de France Coupe avec Lille, donc c'est un peu équivalent à Gatier. Il a fini cinquième avec Le Mans, ce qui est au moins aussi équivalent que Gatier qui finit cinquième avec Saint-Etienne. Mais il a aussi fait une finale d'Europa League avec Marseille, une demi-finale de Ligue des Champions avec Lyon en éliminant City et la Juve. Et surtout, il a réussi à la Roma quand même, où il finit deuxième avec 95 points et il gagne une Coupe d'Italie. Donc non, il a plus prouvé que Galtier que ce soit. Et je parle pas de la qualité de jeu qui est quand même plus agréable en plus sous Garcia. Non, pour moi, je le disais avant que Galtier signe, Garcia a plus prouvé que Galtier.
Alors, on a Marc Zielinski qui nous dit des salaires sur les recrues cet été. J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que... Campos, il a fait bien mieux que ses prédécesseurs niveau salaire, parce que je crois qu'il n'y a rien qui dépasse 5.
6. Non, c'est Renato qui est le plus gros salaire des recrues cet été avec 6 millions, et les autres sont entre 3 et 5.
C'est le plus utile, d'ailleurs. C'est justifié, quoi.
Les gars, on va faire un tour un peu sur... vu qu'on part du sportif et du projet Qatar, je vais mettre une petite vidéo vite fait de ce qui se passe en... D'ailleurs, je crois que c'était une vidéo qui est sortie il y a 30 minutes. On a notre consultant Barry qui a ce qui paraît.
C'est des mecs dans la rue en train de regarder des vaches. C'était quoi?
On a notre consultant Barry qui est sur place et qui a ce qui paraît. Il fait des interventions à la Malcolm X. Donc j'aimerais bien, si vous êtes sur place, prenez des vidéos de cet individu, s'il vous plaît, qu'on le vanne.
Ça va devenir le héros de la révolution parisienne, Barry en étendard du porte-drapeau. Il pourra choisir le prochain président du PSG.
J'ai très envie de réagir au dernier message utilisateur avant, quand il disait que Campos s'est débarrassé des pommes pourries aussi. Alors c'est pas tellement Campos qui s'en est débarrassé, c'est Enrique. Et il y a un procès qui est fait à Enrique parce que c'est justement ces pommes pourries, elles vont revenir à cet été. Mais Campos, c'était pas celui qui l'a vendu, en fait.
Mais en fait, le Paris Saint-Germain, sur le deuxième mandat de Leonardo, déjà sur la fin du deuxième mandat de Leonardo, on était passé dans un directeur sportif qui était beaucoup dans le mix des agents et tout ça, et des commissions, etc. Campos, je pensais que, entre guillemets, ça allait être différent à ce niveau-là. Mais quand je vois les pistes qui ont été évoquées cet hiver, qui étaient des jeux d'agents, je crois, du joueur néerlandais, et quand on voit qu'il a recruté pas mal chez ses amis les Portugais, notamment même comment il s'appelle, Soler, qui est espagnol, je crois que son agent c'est Mendes. Est-ce qu'on n'est pas dans un autre mec qui utilise le Paris Saint-Germain pour remplir ses poches?
Mais de toute façon, mais dans tous les clubs du monde, tous les mecs qui tournent autour des joueurs, dans le foot, il y a tellement d'argent par rapport à ce que c'est, que ça attire des requins, et que les mecs qui arrivent en haut, s'ils ne sont pas que des requins, ont forcément eu affaire à des requins, et ça fonctionnait de cette manière-là. Tous les mecs prennent des petites commissions, il y a machin, c'est caché, c'est bidule, c'est etc. Et là-dessus, il n'y a pas aucun souci. Tu vois, par exemple, on me dit du bien de Antero Henrique, des fois, pour certains, sa côte elle remonte. Antero Henrique, c'est un mec qui croque vénère, et c'est pas grave. C'est pas grave, le problème n'est pas que le mec pense à sa gueule, le problème est que le mec, dans le processus de penser à sa gueule, va quand même apporter des solutions au club qui seront cohérentes par rapport aux besoins du club, et c'est là-dessus qu'on va le juger. Si tu commences à juger les trucs sur les moindres petites commissions et tout, dans le foot, tu vas pas t'en sortir. Tout le monde est là pour croquer, il y a trop d'argent, donc tout le monde est là pour croquer.
Mais moi, ça me dérange pas que tu croques, mais si tu croques dans le sens pour faire avancer le club.
Ouais, c'est ça. Et si au passage, tu croques pour pas faire avancer le club, mais que sur les 9 autres mouvements, tu as énormément fait avancer le club, il n'y aura pas de souci. C'est ça, il faut que tu apportes tes preuves de ton utilité au club. Et Campos est incapable de les apporter par rapport au Paris Saint-Germain. Le fait qu'il croque, ça c'est anecdotique.
Oui, c'est vrai que Chiraz, il y a eu le dossier... Guedes là-dedans, mais c'est aussi parce qu'il a le même agent que... Enfin, c'est Jorge Mendes, l'agent des deux. Nasser et Campos sont les responsables. Bah écoutez, vu que vous voulez tant parler de Nasser, on va passer sur le cas Nasser. Oui, moi j'ai juste une question pour vous, les gars. Où est Nasser?
Il attend le mois de septembre, mois d'août, pour dire cette année, j'ai compris, on va faire différemment.
Voilà. Il est à quatre pattes devant Léo Messi pour le faire prolonger.
Non, si. Après Nasser, des fois on est trop dur parce que Nasser c'est, enfin d'ailleurs,
oui c'est le messager de l'émir.
Voilà, c'est le messager de l'émir. Il y a des succès hors sportifs, il y a des vrais succès au Paris Saint-Germain. C'est pas lui, c'est Jean-Claude Blanc, mais ça a été fait. Il était quand même dans les parages. Il y a certaines prolongations et d'ailleurs on peut à la fois le dire en bien et en mal où clairement il a la main. Il y en a certaines qui fait capoter parce que des fois il intervient, notamment Skriniar et Henrique. Enfin, il y a eu tout un micmac à ce niveau-là. Mais ouais, Nasser, là, on ne l'entend pas, ça ne va pas bien. Nasser, c'est le mec qui a 25 000 casquettes, qui s'occupe de l'ECA, qui s'occupe au niveau du Qatar de je ne sais pas quoi, qui s'occupe de beIN Sport, qui s'occupe du Paris Saint-Germain, que ça se trouve, il est en rachat. Alors, Basto a vu un commentaire, je vais le laisser réagir.
Non, mais c'est vrai, j'imagine très bien. Il y en a un, il disait juste qu'il est en train de préparer son discours pour l'élimination après-midi en disant « je comprends pas ». Donc, il prépare
oui,
son fameux
ouais,
discours.
Ouais, 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 bah voilà. Et comme je disais, en août, dire « ah, ça y est, j'ai enfin compris, on va tout changer, quoi. » Mais ouais, c'est ça. L'enjeu, il est là. C'est est-ce qu'on va vers une catastrophe ? À quel point on va vers une catastrophe ? La Ligue des Champions, c'est mort. Peut-être t'as un chemin de souris où tu passes Munich, mais jamais, déjà en aller-retour, le chemin de souris, il est vraiment étroit et jamais tu passeras deux tours. Le championnat, là, tu vas avoir un match. C'est quoi notre prochain match en championnat ?
J'ai un trou de Lille ouais, dimanche Lille. À 13h.
Voilà, Lille
puis Marseille.
Et Lille qui est compliqué, Marseille qui est compliqué. Tu perds ces deux matchs-là, Marseille gagne ces deux matchs, et ben ils sont devant, tout simplement. Tu as les clubs derrière, tu as un Monaco qui en ce moment qui est en pleine bourre, etc. Donc à quel point on va vers une catastrophe industrielle, et en fonction de la catastrophe industrielle, à quel point les choses vont changer. Mais fondamentalement, on est dans la même problématique. Celle dans laquelle on est depuis le départ de Carlo Ancelotti, c'est la même problématique qui se répercute année en année, avec à chaque fois, on est de moins en moins sur le terrain de foot, dans des problématiques football, de plus en plus dans des problématiques qui sont annexes. Et puis voilà, c'est à quel point on va avoir une catastrophe industrielle et à quel point ça pourra changer. Si tu n'as pas la catastrophe industrielle, si tu sors, tu passes Munich et puis finalement, tu arrives à sauver la première place, rien va changer. On le connaît, on l'a déjà vu, on l'a déjà expérimenté. Ou si ça change, ça sera des changements qui feront qu'il n'y a pas de changement. Peut-être l'espoir de la catastrophe industrielle.
Bah, retour d'Mbappé, Eve, d'ici la semaine prochaine. J'ai vu quelque chose qui m'a marqué dans les commentaires. Enfin, on le sait tous, mais le fait de le voir noir sur blanc, ça m'a remis les yeux sur le problème. Il a dit, un président pas totalement focus sur son club, un DS pas totalement focus sur son club, on est bien beau. Alors les gars, franchement, où est-ce que vous avez déjà vu dans un club un DS qui gère deux clubs, un président qui gère le PSG, qui gère le CA, qui gère l'UEFA
Beaucoup de trucs, beaucoup.
On peut faire la liste jusqu'à demain matin. Est-ce qu'il n'est pas là déjà le plus gros problème ? Déjà, on a un problème d'implication, déjà, tout simplement. Comment tu veux que les joueurs soient impliqués quand tu vois... En fait, moi je vais le retranscrire au taf, à nous, simples salariés dans nos tafs. Moi, je suis désolé, moi, je ne monte pas ma tête, je peux me permettre de dire ça, mais quand le chef, il n'est pas là, on ne taffe pas comme quand il est là, je suis désolé. Dès qu'on voit qu'il y a un trou dans lequel se glisser, du coup, on va faire des journées, on ne va pas grave taffer. Est-ce que déjà, ça, ce n'est pas un gros problème au Paris Saint-Germain ?
Mais quand le chef est le chef et que le chef il n'est pas là, il s'en fout parce qu'il est le chef et il taffe comme il veut. Enfin, toi, tu prends Mars, j'ai perdu son nom, le président du Real Madrid, c'est un
mec
qui a je sais pas combien de sociétés. Tu prends Olas, il a deux sociétés. Tu prends.
Oui, mais ils ont qu'un club.
Oui, ils ont qu'un club. Mais les doubles, triples, quadruples emplois à ce niveau-là, c'est commun. Non, c'est ce qui est important justement dans ce cadre-là, et c'est ce que t'attends d'un président, c'est qu'il délègue intelligemment. Et qui va mettre des personnes compétentes au poste. C'est pas forcément dans le temps qu'il investit dans le projet. Alors ça va être aussi dans le temps qu'il investit dans le projet, parce que c'est lui qui va prendre les décisions. mais ça va être la compétence des gens avec lesquels ils s'entourent. Par exemple, si on prend Paris Saint-Germain, il y a quelque chose qui avait été très bien fait, c'était s'entourer notamment de Jean-Claude Blanc. Et ça a été un plein succès. Le problème, c'est qu'au niveau sportif, c'était l'image, et ça, il fallait pas, enfin, on se souvient tous, hein, l'adjoint du directeur sportif qui était Le Tang, à l'époque où tu n'avais pas de directeur sportif, tu avais un président et un adjoint du directeur sportif. Enfin, va comprendre le truc. Et voilà, le problème, c'est pas combien de taf il a. Le problème, c'est quelle personne il a mis autour de lui pour organiser et gérer les affaires courantes. Parce que très souvent, les dirigeants, ils n'ont pas le temps de gérer les affaires courantes. Ils ont besoin d'avoir des mecs qui vont les gérer. Et qui c'est qui gère les affaires courantes au Paris Saint-Germain et au niveau sportif? Bah, cette année, c'est Campos. Mais,
C'est là où tu vois la contradiction, Dreyas, parce que c'est quand même des mecs, ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps. Et toi, tu dis qu'il faudrait qu'ils mettent des gens à côté pour les aider. Mais en même temps, c'est des mecs qui ne font pas confiance à d'autres personnes, et à chaque fois qu'il y a un autre mec, ils vont rentrer dans des guerres de pouvoir où genre je te dis de faire ça, mais dépasse pas trop la case, s'il te plaît. Genre, tu vois, quand Leonardo il était un peu trop impliqué, souvent on le remettait à sa place. Genre Nasser, il revenait sur le terrain et disait vas-y, c'est moi qui gère ça. Donc il y a un truc où tu sais pas vraiment ce qu'ils veulent. Soit ils disent on met quelqu'un, mais la personne, elle peut pas faire ce qu'elle veut, donc au final, ça sert à rien. Soit tu viens et tu fais ce que tu as envie de faire. Je sais pas, c'est bizarre.
Ouais, mais ça a toujours existé. C'est les jeux du pouvoir. Alors après, c'est vrai qu'au niveau qatari, et puis d'une manière générale, je parle vraiment, c'est des préjugés que j'ai. C'est des préjugés, il y a zéro jugement. Au niveau Moyen-Orient, le rapport avec le pouvoir n'est pas le même que le rapport avec l'Occident. Et peut-être qu'il y a des choses qui à nous, en tant qu'Occidentaux, personnes qui habitent en Occident, quoi, on n'apprécie pas de la même manière certaines choses et on n'a pas la même lecture. Et là-bas, c'est très... me semble, hein, je parle vraiment, je fais gaffe en disant, je mets toutes les guillemets d'usage et tout, mais il me semble que c'est beaucoup plus clanique que la distribution de pouvoir se fait beaucoup plus par rapport à des gens que tu connais d'avant, etc., etc., et pas tellement par rapport à des critères de compétence. Ça ne veut pas dire que les critères de compétence n'existent pas, mais ça veut dire que peut-être c'est pas mis en avant de la même manière, et du coup on va avoir cette lecture, mais en soi... Ce que tu viens de décrire, le fait qu'un président va nommer un conseiller, enfin même pas un conseiller, va nommer un président délégué pour s'occuper de telle partie, le président délégué va aller chercher à accroître son pouvoir, et le président va faire en sorte que le président délégué reste président, mais que de la délégation, et certainement pas du reste. Et ça, c'est des jeux de pouvoir, et ça a lieu dans toutes les entreprises, à ce niveau-là, ça a lieu partout. La seule chose, c'est un état d'esprit qui est moyen oriental, c'est peut-être pas le même, et moyen oriental des pays du Golfe, c'est peut-être pas le même que l'état d'esprit occidental, et du coup nous, ça nous choque un petit peu dans la lecture. C'est la suite que je fais, quoi.
On peut passer à un autre sujet que Nasser, parce que ça m'ennuie profondément. On a parlé depuis 2 ans, on a tout dit, je crois.
C'est pas que Nasser, là par exemple, t'as Chirac qui te dit quand Tourelle a tenté de régner, il s'est fait état de parler par Leonardo.
Bah, c'est normal aussi.
Non mais Tourelle, lui aussi, il a dépassé les bornes, il s'est fait éteindre dans tous les clubs où il est passé, il a eu des problèmes au bout d'un an, donc ça c'est un autre problème. Le principal problème de Nasser, c'est oui, quand Unai veut mettre Silva sur le banc Ligue des Champions, Silva envoie un texto à Nasser et ça fout le bordel, donc forcément tes joueurs peuvent interférer avec ton N+1 en mettant mal ton N+2, ça va pas bien se passer, oui.
Et juste pour Tourelle, n'hésitez pas à vous renseigner sur le vrai prix de Minsk, de Kerrer. Parce que Kerrer, on l'a acheté 32 millions et en fait le club adverse a touché 17. Il n'y a pas que les agents qui ont touché des consignes.
Bon, après, on n'est pas sûr
qu'on va suivre et vous verrez.
Je sais pas trop ce qu'il en est. Normalement, on arrive à recevoir des stickers du Canada et d'autres pays dans le monde. Donc peut-être essayer les super chats, peut-être que c'est juste les stickers qui ne fonctionnent pas. Deuxième chose, on est 284, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup. Et troisième chose, tous ceux qui sont présents au camp des loges, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos et à taguer le compte Paris Central, que je les mette dans le live, merci. On va essayer de passer à autre chose, ça fait une heure qu'on est sur ce sujet. Alors, on va essayer de faire plaisir à Lassana, qui est quelqu'un qui nous regarde assez régulièrement, et dans les commentaires, il avait dit... Est-ce qu'au prochain live, vous pouvez régler une question pour moi? Si on dégage Galtier, vous préférez Guardiola ou Zidane? Personnellement, je vais dire qu'aucun des deux va venir, mais on est dans une question fantastique où la Sana nous pose la question. Donc, je vous laisse répondre.
Guardiola ou Klopp ou Guardiola ou Zidane?
Guardiola ou Zidane.
Je suis quelqu'un qui ne suis pas fan de Zidane, qui je pense on a toujours vu dans. Bah, c'est exceptionnel hein, ce qu'il a fait gagner 3 Ligues des Champions de suite, mais c'est quelqu'un qui a réussi dans un contexte unique qu'est le Real Madrid, où il connaît très bien la maison, où il est forcément respecté des joueurs. Maintenant, tactiquement, ça reste assez basique. Et je le vois pas non plus avoir le pouvoir de mettre des Neymar, Messi sur le banc, etc. Lui, je pense qu'il est aussi politique que Zidane. Et Guardiola, bah, si tu donnes les garanties, évidemment, de faire ce qu'il veut, bah, je pense que tout le monde sera content d'avoir Guardiola. Au moins, on retrouvera le plaisir d'avoir quelque chose sur le terrain, le plaisir d'avoir des émotions, peu importe le résultat, ne serait-ce que voir du jeu ou des choses mises en place. Donc, pour moi, Guardiola, évidemment.
Moi, dans le contexte actuel, Zidane, tous les jours, Guardiola, faire venir Guardiola, c'est mettre par terre la dernière illusion que tu as sur le football, d'une certaine manière. Les Qataris qui disent « tu auras tous les pouvoirs », c'est la chose qu'ils disent à tout le monde, et c'est la dernière chose qui se passe, en fait, dès qu'il y a les premières difficultés. Mais de toute façon, si Zidane pourrait venir, même si, a priori, comme tu l'as rappelé, Nix, il ne viendra pas, Guardiola ne viendra jamais. Donc la question se résout. Sur le papier, dans un club qui fonctionne bien, bah, je choisis toujours tous les jours Guardiola, je pense à peu près comme tout le monde, mais dans le contexte actuel, ce serait moins cataclysmique, je pense, Zidane. Mais tu parlais tout à l'heure de deux autres coachs, enfin tu parlais d'un, et il faudra en rajouter un autre, c'est Mourinho et Conte. À ce moment-là, eux, ça pourrait justement le perfect match.
Bah, je t'avouerai que je préfère Conte largement à Mourinho parce que Conte, ses idées de jeu vont plus ou moins bien. Enfin, on est bien parti avec notre effectif pour caler. Il lui manquerait 2-3 pièces. Et en plus, c'est le mec qui va pas rechigner à venir dans ce projet, je pense. Et il va pas vraiment venir que pour l'argent parce que Conte, c'est un mec, il a une culture du travail qui est astronomique. C'est le mec qui dort, vas-y, 3-4 heures par nuit. Mais le problème avec Conte, c'est que c'est pareil que Galtier a un niveau complètement différent, mais en Ligue des Champions, Conte, c'est pas trop ça. C'est son seul bémol. Après Mourinho, franchement, je lui ai dit, il va faire la même chose qu'à Manchester United, à Tottenham, il va venir, il va casser le vestiaire, et les joueurs, ils vont l'abandonner, et puis on va claquer 20 millions pour s'en séparer.
En vrai, la Ligue des Champions, en soi, on s'en fout. Hein. Même s'il a réussi enfin à se qualifier avec Tottenham, mais c'est pas le principal. Si on a un mec qui arrive comme ça et qui casse la relation avec le vestiaire, et même avec les dirigeants, parce qu'on sait que Conte part toujours fâché, ça peut être drôle, mais ça peut aussi finir un coup d'épée dans le vent ou rien ne change. Donc je sais pas, mais oui, compte Mourinho, si avec eux, si tu choisis la solution de détruire le vestiaire et qu'avec eux ça marche pas, ça marchera avec personne, c'est sûr.
Ok, bon, on va aborder le deuxième sujet de ce live, qui est le PSG versus la Super League. Alors, il y a quelque chose qui va se faire au niveau du tribunal actuellement où, entre guillemets, il y a une société qui a lancé la Super League qui, entre guillemets, va avoir une réponse du tribunal concernant la concurrence déloyale de l'UEFA. Et à ce qui paraît, ce serait pas très bien parti pour l'UEFA qui va pas forcément obtenir... Oh, merci Swapper pour le don de 5 euros, c'est une frappe en pleine lucarne. Petite question, si City prend une sanction de relégation, on doit prendre des joueurs, si oui, lesquels? Ah, bah en fait, tu as lu le sommaire en haut. Il y a écrit les soldes à City, on va parler de ça tout à l'heure. Ok, j'étais sur le tribunal qui va probablement statuer en défaveur de l'UEFA, qui relancerait et qui remettrait une pièce dans la Super League. Alors, le nouveau système, ce sera un système un peu plus ouvert, où il n'y aurait plus les clubs qui sont protégés comme dans la première version. Et il y a pas mal de choses qui seraient quand même, en dehors du fait qu'on a un club... qui est la propriété d'un club État, qui serait plus ou moins favorable au Paris Saint-Germain, dans le sens où il y a la fiscalité serait prise en compte, c'est-à-dire que les clubs comme le Real ou je sais pas comme le Bayern qui ne peut pas beaucoup de fiscalité, bah en fait ils auraient moins la possibilité de dépenser que nous, et nous vu qu'on a une grosse fiscalité, on aurait plus le droit de dépenser, chose qui rendrait les choses un peu plus équitable pour tout le monde. Donc là, vu l'état dans lequel la Première Ligue est partie, et on voit très bien que c'est une Super Ligue à elle toute seule, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une solution pour le Paris Saint-Germain et voir les autres clubs espagnols et italiens qui sont en très grande difficulté? Est-ce que ce ne serait pas le moment de partir en Super Ligue?
C'est une solution économique, effectivement, pour des clubs qui veulent continuer à grandir, comme Paris, là, c'est sûr, ils ne seraient plus gênés par le fair play financier, ils pourraient de nouveau investir, etc. Maintenant... Évidemment, oui, il y a des problèmes. Quand tu vois la Première Ligue et Chelsea qui dépensent plus à eux tout seuls que tous les autres clubs du Big Four, il y a déjà des, problèmes dans le système actuel. Maintenant, pour moi, la Super League, c'est définitivement la mort du foot pour plusieurs raisons. Draya sera d'accord avec moi. Le côté territorial, tu dois être maître dans ton pays déjà et te déplacer. Enfin, voilà, tu t'attaques au côté territorial, tu t'attaques à la nature même de ce sport qu'est le foot, qui est un sport de base populaire. Ensuite, le côté, même si c'est plus ouvert et plus fermé, ça reste semi-fermé. Donc pourquoi un club comme Tel Aviv, ou un petit club italien qui finirait quatrième du championnat serait interdit, eux, d'avoir leur grosse affiche parce qu'il faut, que ce soit les gros qui jouent toujours, etc. etc. Et le troisième, c'est qu'au bout d'un moment, on verra des PSG Munich, des PSG Barça toute l'année. Et c'est comme on dit, manger du caviar tout le temps, c'est fatigant. Moi, ça m'amuserait pas de voir un PSG Munich deux fois par semaine. Donc, pour toutes ces raisons rapides, après, on verra si ça se met en place. Ça se mettra sûrement en place, mais je pense que ce sera sans moi.
Juste très rapidement pour réagir au message, il y a un message qui disait Jürgen Klopp. Ah ouais, Jürgen Klopp, mais Jürgen Klopp, en fait, tu l'avais en un peu moins fort qu'était Pochettino. Jürgen Klopp, pour moi, c'est du Pochettino un peu plus. Et on a vu que Pochettino n'y arrivait pas, et je pense que Jürgen Klopp n'y arrivera pas, et je pense qu'il a fait la même analyse.
Un sujet, un Klopp, c'est après.
Ouais, non, mais oui, je sais, mais je réalisais un commentaire, et je pense qu'il a fait la même analyse, et qu'il ne viendra jamais au Paris Saint-Germain. Faut pas se bercer d'illusions. Pour la Super League, passe-toi. Dit l'essentiel, c'est tu perds le foot tel qu'il est né. Alors le foot a pour vocation à évoluer, hein. On voit avec la VAR, ça n'a pas tué le foot, mais déjà ça a changé quand même quelque chose. Ne plus être lié à un territoire, c'est même pas forcément une histoire de guerre, de machin, de truc. Mais le foot au début, c'est une entreprise, c'était une société contre une autre société, c'était Fiat contre je sais pas qui, c'était très localisé, c'était tel groupe d'ouvriers contre tel groupe d'ouvriers, et c'est cet héritage là. Et tu perds le foot de la base. Et on voit de plus en plus dans les grands clubs des prix de place qui atteignent des montants qui deviennent hallucinants. On le voit très bien avec le Paris Saint-Germain, mais il va en Première Ligue, il va en Angleterre, etc. etc. C'est le foot devient même l'accès voir les matchs commence à devenir super cher entre les différents trucs auxquels il faut être abonné, etc. Donc si tu vas pas au parc, si tu vas pas au stade, voir les matchs devient très très cher. Le foot se perd complètement, et la Super League est l'avènement de ça. Après, comme l'a dit Basto, pour le Paris Saint-Germain, ça serait une très belle idée. Ça serait une belle idée pour le Paris Saint-Germain. Mais à mes yeux, c'est une très laide idée pour le football. C'est pauvre.
Je rajoute quelque chose, c'est que toutes les tentatives de ligues privées dans des sports qui ne sont pas des sports US, hein, puisque eux fonctionnent comme ça avec des franchises en plus, c'est des franchises. Alors, on pourrait franchiser le foot et peut-être faire des championnats où on regroupe Pays-Bas, Luxembourg et Belgique et faire un championnat du Benelux, ce serait déjà une autre idée, créer des grosses franchises, etc. Mais toutes les tentatives dans les sports de ligues privées ont échoué. La Coupe Cosmos qui a complètement sabordé la Coupe Davis dans le tennis. En basket, ils ont voulu lancer une compétition européenne indépendante contre l'Euroleague habituelle. Ça a été une cacophonie totale. Et ça l'est toujours entre les équipes qui choisissent l'un puis l'autre. Ça ne fait que créer des divisions. Toute tentative de ligue privée a complètement foiré.
Mais il y a une grande différence avec les sports dont tu parles, Basso, c'est que le foot, c'est le premier truc, le premier sport regardé au monde. Et du coup, cette ligue privée, si tu te débrouilles pour avoir des clubs comme Munich, comme City, comme je sais pas, j'arrive pas à trouver des noms de clubs très très connus, mais il y en a plein, à avoir ce genre de club avec ce genre de confrontation, les gens achèteront. Et c'est ça se passe, ça marchera. Tu prends l'action, ça marchera.
Sois peur, franchement, merci de penser à moi. T'es la première personne qui pense à moi depuis un nombre incalculable de lives. Merci de penser à mon petit doigt, c'est très gentil.
Il va plus pouvoir s'occuper à droite, du coup.
Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a pas mal de nouveautés dans la nouvelle version de la Super League, parce que dans la première version, on avait vu les fans débouler parce que personne ne voulait que ces clubs rejoignent la Super League, et du coup, après, les clubs, ils ont fait marche arrière. Sauf que les mecs, ils ont écouté tout ça, et du coup, ils sont revenus dans une nouvelle formule qui n'est pas encore complètement établie. Et entre guillemets, il y aura des dialogues avec tout le monde pour vraiment que ça soit un succès. Et en fait, c'est juste...
Ils essayent de vendre leur truc, quoi. Ils essayent de vendre leur truc. Première proposition, ça n'a pas marché. Bah, voyons voir une deuxième proposition. C'est un petit peu comme le gouvernement qui essaye de faire passer une réforme. Ils essayent de négocier, de machin, de trucs. Ah bah tiens, voilà, on va trouver.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils essaient d'apporter des vraies solutions au truc.
Nix, quoi qu'il arrive, solution ou pas, cette Super League casse les championnats nationaux.
Dans les faits, et au-delà de ça, dans les faits, c'est de maximiser le nombre de rencontres hautes dans l'année. C'est-à-dire maximiser les paris Bayern, qui est plus de matchs comme cela. Et inévitablement, à l'arrivée, tu vois, je veux dire, dans un premier temps, ça va être effectivement, on va laisser, et puis les championnats nationaux vont continuer, etc. Mais comme tu auras de plus en plus de matchs, genre hôte de Ligue des Champions à voir, etc., bah les gens regarderont de plus en plus ça, et du coup les ligues nationales auront de moins en moins d'argent, et à l'arrivée tu arriveras à ce qu'ils avaient proposé au départ, c'est juste que ça mettra un peu plus de temps.
Les gars, écoutez ce que je vous dis, parce que en fait là vous êtes sur la version précédente.
Écoutez
les nouveautés, parce que vous me dites des trucs que j'ai écouté le mec qui fait la Super League. Il a dit qu'en fait, les championnats nationaux vont pas être touchés. Ça veut dire que ça va toujours être comme championnats nationaux le samedi, et le mercredi, il y aura encore les matchs, sauf qu'au lieu de voir des PSG... des PSG Lugoretz le mercredi, ce sera des matchs plus intéressants, c'est tout.
Oui, et le truc, c'est que tu auras de plus en plus de spectateurs pour regarder le match du mercredi, et comme mine de rien, voir deux matchs, etc., on a quand même une vie et qu'il faut faire un choix. Tu auras de moins en moins de spectateurs pour voir le match de dimanche. Et donc, les droits des champions nationaux vont baisser, etc. La seule chose que je suis en train de te dire, c'est juste, et c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est que c'est juste des nouvelles règles pour arriver au même résultat par un moyen détourné. C'est juste sur un temps de 5, 6, 7 ans.
Tu fais encore plus une division par pays entre les clubs qui feront la Super League, qui vont voir leurs revenus exploser, etc., par rapport au reste du championnat. Et une vision capitaliste contre le reste.
Et quid du sport, je veux dire, Basso le rappelait, ça marche avec les franchises US. Alors, je ne suis pas expert, mais il me semble que quand tu es au basket, par exemple, tu ne peux pas descendre, en fait. Tu appartiens aux équipes du basket.
Là, ils vont faire un truc semi-ouvert.
Mais bon, dans l'idée, c'est un peu fermé. Mais nous, on n'est pas éduqués avec ça, quoi. Pour nous, le sport est quand même un peu lié au mérite. Et se le rappeler tout à l'heure, un club qui fait un parcours exceptionnel dans son championnat qui n'aura jamais l'occasion de le défendre en Coupe d'Europe. Alors je sais, on n'a pas des bons exemples avec la France, avec d'une manière générale des clubs français qui en Europe sont ridicules. Mais il y a des pays où, mine de rien, les clubs font des super trucs en Coupe d'Europe. Et le fait de plus jamais avoir ça, de plus avoir le droit. Par exemple, tu aurais. Alors bon, Ajax, peut-être qu'ils y seraient dans la Super League parce qu'ils ont cette image, etc. Quoique l'Ajax en ce moment, ce qui paraît, j'ai pas vu de match cette saison, mais à ce qui paraît, ils sont bien dégueulasses. Mais des épopées comme l'Ajax où tout à coup, tu as des clubs qui vont accomplir quelque chose d'exceptionnel sur un an, t'en auras pu. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu aies encore le Paris-Bayern, le Munich-Barcelone,
Ce qu'on peut dire, c'est que la nouvelle Ligue des Champions 2024 qui va être mise en place, c'est une cacophonie tout aussi grande. On n'y comprend rien avec cette.
Mais de toute façon, on y va.
La moitié des équipes est que à l'aller.
On y va, Basto. De toute façon, on y va. C'est juste la Champions League essaye de reprendre des idées de la Super League initiale parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il y a plus de
trucs.
Et la Super League essaye de tirer le truc.
Oui, mais, voilà.
Mais à l'arrivée, ça va se tourner vers la fin des championnats nationaux.
J'essaie de vous dire, les gars, c'est qu'il y a... En fait, ce qui est bien dans la concurrence, c'est que ça fait les choses avancer. C'est comme, par exemple, quand Orange, il avait un monopole. Après, depuis qu'il y a eu Free et tout ça, on a vu que la qualité des services et des prix, ils ont chuté. Là, le problème actuellement, c'est que pour voir du foot, là, je regarde, c'est Canal+, pour avoir du sport, 44 € plus, ça nous coûte 66 €. 66 € pour voir la Ligue 1 et le reste du foot. Là, en fait, ce qu'ils voudraient faire, c'est limite, j'ai vu, il y a dans tous les matchs de la Super League qu'ils veulent faire, il y aura 4 matchs gratuits de chaque équipe par club. Et en fait, le problème qu'ils te disent, c'est que 66 € par mois, les nouvelles générations ne peuvent pas regarder le football. Ils ne peuvent pas. Là, vous me dites, je veux bien comprendre que vous me dites que la Super League, c'est pas bon, nanani, nanana. Mais le modèle actuel, il est pas bon. Dans tous les cas, il faut faire quelque chose, il faut avancer. Parce que là, quand tu me dis que l'Ajax gagne 10 millions... le dernier de PL gagne 120 millions de droits TV, comment vous pouvez dire que le petit club il peut aller loin?
On est d'accord, mais la Super League, c'est pas la solution, parce que alors les gens vont voir les Majorati, mais du coup, ils vont voir de nouveau que les Munich contre City, ils vont se désintéresser des équipes comme Lille cette année dans le championnat de France qui proposent un super jeu, etc., etc. Donc, ils ne connaîtront pas le foot, ils connaîtront 15 équipes.
Et indépendamment de ça, l'argument financier, tu vois, tu parles par exemple d'Orange qui avait le monopole, etc. Et puis maintenant, t'as Free, t'as machin, t'as truc qui s'est mis en place. Puis, ça, effectivement, dans un premier temps, ça a été très bon pour le consommateur. Et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Bah, c'est que grosso merdo, toutes les offres sont dans des prix qui sont relativement élevés, que toutes, bah, finalement, ont des centres d'appel qui sont délocalisés avec une qualité de service qui baisse. Si tu compares la qualité de service par rapport à il y a 5 ans, la qualité de service a baissé, etc., etc. Pour te vendre un truc, on te donne envie en te faisant croire que c'est pas cher et tu vas y gagner sur le court terme. Tu vas y gagner sur le court terme, mais tu te rends enflé sur le long terme et c'est toujours comme ça. Toi, tu es en train de me dire oui, bah tu vas pas avoir et du coup, bah, tu vas avoir 4 matchs gratuits puis tu auras un seul abonnement à 20 euros. Ça, c'est dans un premier temps. Parce que dans un second temps, bah, t'as aucun... effectivement, il n'y a qu'un seul opérateur, soit ça se redistribue différemment, mais si tu n'as qu'un seul opérateur, dans un second temps, tu as 0 match gratuit et c'est 3 fois plus cher. Parce que bah, c'est juste, les mecs, ils sont là pour faire du business. Donc au début, ils tapatent le client pour qu'il vienne et pour qu'il dise « ouais, c'est génial, etc. Ouais, j'achète. » Puis une fois que tu as acheté, bah, quand tu veux racheter dans le futur, bah, tu vois, il n'y a rien de nouveau là. Tu vois. C'est effectivement, ils vont te faire, et de la même manière qu'ils essayent de te vendre le projet Super League en te faisant bien comprendre que non, ça ne va pas toucher ton championnat, etc. Ça, c'est aujourd'hui. 5 ans après, tu as une autre réalité.
C'est comme la vidéo, hein, on nous avait dit toutes les choses en place, la VAR qui est arrivée à Savanier, puis on voit que c'est un engrenage. Du moment que tu mets les pieds, c'est fini après.
Ok, la boîte bon, bah, pour clôturer ce sujet, Dreyas et Basto sont contre. Moi, je ne suis pas aussi fermé, je suis peut-être optimiste parce que franchement, voir le PSG se faire douiller sur les règles de masse salariale et tout ça, franchement, ça, je commence à en avoir marre qu'on paye autant de taxes que de masse salariale, voire plus. Et au final, en Europe, on se fait toujours douiller parce que là, regardez, on n'a pu acheter personne parce que notre masse salariale, elle est au-dessus du plafond, alors que le Real, avec une masse salariale quasiment... supérieure à nous en vrai au final, mais au final elle est plus basse parce qu'ils n'ont pas autant de charges et puis c'est tout. Donc actuellement pour moi c'est pas équitable, donc moi je suis à la recherche d'une autre solution.
Mais ça, on est d'accord qu'il faut une autre solution.
Ok, bon, on va
juste
passer
un petit aparté hors sujet. Julia Simon est championne du monde de biathlon, voilà.
Okay. Donc ça, on est 238, il y a une personne qui a été intéressée par cette intervention, donc je te remercie de sa part. Deux avec Dreyas. Ok, si vous avez été intéressé par cette information, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
Ah, tu vois, il y a un but Julia Simon de Romain.
Romain, c'est donc toi le seul et unique. Ok. Tout à l'heure, on a parlé de Guardiola Zidane. En fait, on a parlé aussi de Klopp. Je crois qu'on a oublié de parler de Klopp, donc on va vite parler du sujet vite fait. Il sera peut-être libre cet été, vu ce qui se passe à Liverpool, bien que j'ai vu comme quoi ils voulaient se débarrasser de Salah et refaire une refonte totale. Donc peut-être qu'ils vont faire confiance à Klopp pour la refonte. Mais peut-être qu'il sera sur le marché. Qu'est-ce que vous pensez de Klopp au Paris Saint-Germain?
J'ai déjà répondu tout à l'heure, c'est Klopp, c'est Pochettino en un peu plus. Et il a très bien vu comment ça s'est passé pour Pochettino. Klopp, il ne viendra pas au Paris Saint-Germain.
Klopp, son jeu, c'est le gegenpressing. Et Paris, il voit bien ce qui se passe. Les forces de son jeu, c'est pile ce qui ne correspond pas à ce qu'est le PSG. Donc je ne vois pas pourquoi il irait là-bas.
Et c'est là où, si tu veux, tu te rends compte qu'un Pochettino qui veut partir en décembre parce qu'il s'en rend compte, bah, c'est quelque chose que tu vas payer très cher. Parce qu'un coach qui va venir au PSG maintenant sait que si jamais les conditions ne sont pas réunies, on lui a un peu menti sur la marchandise et sur les intentions, etc., bah, il ne peut pas partir, et bah, ça va compter. C'est autant d'éléments qui font que ce genre de coach ne viendra jamais.
Ok, bah, écoutez, on va passer au dernier sujet qui passionne.
Alors, on n'en sait rien, mais c'est peu probable, quoi.
Peu importe qui vient, il ne peut pas casser les 3 devant, ça changera quoi? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, la Ligue des Champions est une opportunité pour les petits clubs comme Steaua Bucarest, Porto de temps en temps. Oui, c'est ce que Basto disait tout à l'heure. Bon, on est à 1h22 de live, on va attaquer le dernier sujet qui est que Manchester City, ça ne va pas être tout de suite parce qu'il y a une commission qui va enquêter sur tout ce qui a été découvert, donc ça va prendre un peu de temps, mais quasi inévitablement, ils vont être sanctionnés. Du coup, ça risque de peut-être être les soldes à City qui va prendre probablement des grosses sanctions, des pertes de points, voire peut-être relégation. J'ai une question un petit peu marotte pour vous. Si c'est les soldes à City, vous pouvez choisir deux joueurs. Vous prenez qui? Dans la liste, je vous en ai sorti 9. Vous avez le choix, vous pouvez en prendre que 2. Alors, premier, vous avez De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Haaland, Alvarez, Foden, Ruben Dias, Grealish et Mahrez. Vous pouvez en prendre que 2.
Ruben et Dias. De Bruyne et Dias, pardon.
Pourquoi?
Bah, De Bruyne, parce que pour moi, c'est le meilleur 8 du monde. Après, toi, t'hésites entre De Bruyne et Bernardo Silva. Mais je crois pas que Silva, tu l'avais proposé.
Bernardo Silva, mais... si, il est dans la liste.
Ouais, bah, j'ai De Bruyne ou Bernardo Silva, un des deux. Alors après, il y a Gundo. Moi, Gundo, j'ai toujours été un fan inconditionnel.
Il est pas dans la liste.
Ah, il est pas dans la liste. Bon, bah, il est un peu...
Ouais, voilà. Il part libre au Barça.
Voilà, en gros, t'as le 8 parfait. T'as besoin d'un 8 parfait. C'est vraiment... le mec qui sait jouer au milieu devant la balle au Paris Saint-Germain, c'est un truc qu'on n'a pas en stock. Alors après, avec De Bruyne, t'as des soucis d'impact défensif, même s'il est capable de presser en équipe. Et pour ça, Bernardo Silva est un peu plus intéressant. Mais les passes de De Bruyne, c'est tellement de la magie. Et Ruben Dias, parce que bah, t'as enfin ton 6, quoi.
Non, c'est un défenseur, hein, Ruben.
Ah,
Dias,
je confonds avec Rodri.
Ah oui, oui.
Ah, je confonds avec Rodri. Bah, je voulais dire Rodri. Excusez-moi, j'ai des problèmes de mémoire. Rodri, parce que tu as ton 6 depuis Mota, tu n'as toujours pas de 6. Tu attends un 6, tu as besoin d'un 6. Alors après, Rodri, ça t'oblige de jouer en point de base d'une certaine manière, mais c'est une point de base d'une telle qualité que tu joues un point de base avec plaisir et tu peux justement te permettre d'avoir un De Bruyne qui est devant lui.
Je vais être très original, je vais dire Rodri et Bernardo Silva, tu vois, pour changer. Non, je pense que devant, Mahrez, il n'y a pas besoin. Haaland, ce serait une mauvaise idée par rapport à beaucoup de choses. Si on veut vraiment créer un autre collectif, on voit que ça, c'est un pur buteur, etc., etc., mais c'est pas forcément la meilleure idée. Alvarez, c'est un bon prospect, mais à Paris, ça ne marcherait pas. Ruben Dias, c'est un très bon décès, mais si on prend Skriniar, ce n'est pas la priorité. Donc oui, non, Rodri pour avoir le 6. Et après, en choix, je prendrais De Bruyne, mais De Bruyne est plus cher que Bernardo Silva. Donc je suis aussi dans une logique financière. Mmh. Bernardo Silva est sur le marché, donc Bernardo Silva. Mais si c'était au même prix, je prendrais De Bruyne.
Avant de répondre, je regarde juste l'âge de Rodri, 26. Moi, je vais faire par élimination. Il y en a 9. Kevin De Bruyne, je ne le prends pas parce qu'il est trop vieux. Je vais installer un projet sur la longue durée au Paris Saint-Germain, donc je ne le prends pas.
C'est Silva non plus.
Rodri, 26 ans, pièce manquante du Paris Saint-Germain depuis 7 ans, je pense que je le prends. Bernardo Silva,
il a le même âge que De Bruyne, je crois. Hein.
Un peu plus Bernardo jeune,
Bernardo Silva,
il doit avoir 30 ans.
Bernardo...
Je crois qu'ils ont le même âge.
De Bruyne doit avoir 32 et Silva 30.
94, ça lui fait quel âge? 28. Il a encore 5 bonnes années.
Bernardo alors aussi.
Moi, c'est sûr que je prends Rodri. Après, dans le deuxième, j'hésite vraiment entre Haaland et un milieu de terrain parce que si Kylian, il part et qu'on se débarrasse de tout
trio. Tu comprends l'attaquant en otage dans ces cas-là, quoi.
Vlahovic. Ah.
Oui, mais Vlahovic, c'est sûr que c'est notre choix favori à tous, mais ce sera pas forcément une option. Là,
dans l'esprit de Knicks, ils voient compte avec nos latéraux Hakimi et Nuno pour centrer sur Haaland.
Exactement, là, mon gars.
Ça marche aussi avec Vlahovic. Et Vlahovic, s'il est. Enfin, pour moi, c'est. Il est moins déménageur. Mais
après Haaland, c'est cher. Alors, si tu prends aussi la contrainte financière.
C'est 150 millions la clause, je crois. Par contre, c'est vrai que Bernardo Silva, c'est pas cher. Mais Foden, il est très très jeune et il est très très... Moi, je pense que je prends Foden plutôt que Bernardo Silva parce qu'il est jeune. Et si tu arrives à faire une génération avec Hakimi, Nuno Mendes, tu peux être bien pendant 10 ans. Foden avec Rodri qui a 26 ans. Ouais, moi, je prends Rodri et Foden, je pense.
Moi, je pense que si tu as Rodri et que devant, tu vas faire jouer Danilo et Verratti, c'est du spiou. Et donc je pense que le milieu c'est tellement, on a tellement de manque au milieu, on n'arrive tellement pas à trouver la solution que pour moi il faut tout mettre au milieu en fait.
Foden peut jouer milieu, hein. Foden peut jouer milieu.
Moins que Silva ou que De Bruyne. Moins. Enfin, beaucoup moins.
De Bruyne, oui, Silva, les deux Foden, s'ils sont utilisés à la fois 8, 10 et liés hein, par Pep.
Okay. On va voir un peu qu'est-ce que tout le monde a répondu parce que c'est très intéressant. Haaland, il y a Swapper qui nous dit De Bruyne, Haaland, pas mal. J'aime bien. Silva Mahrez. Mahrez, pareil, très très gros joueur que j'aime beaucoup, mais pareil, 30, 31 ans, je crois. Donc dans un nouveau projet PSG, je vais pas le prendre. Est-ce que Kylian va jouer contre le Bayern? Bah, ils ont déjà dit que non. Haaland, Ruben Diaz. Donc toi, tu fais les extrémités du terrain, l'attaquant et le défenseur. mais ça règle pas le problème qu'il n'y a pas de relation entre les deux, Shiraz.
Rodri, c'est vraiment, je pense, le s'il y en a un, c'est Rodri, effectivement.
Si tu as un joueur à toucher, c'est ouais, Rodri, c'est il résout tellement de problèmes à lui tout seul. C'est un truc de fou, ce joueur. C'est un truc de fou. Il est à la fois physique, il est capable de couvrir le terrain dans tout. Enfin, il couvre tout.
Il a même été excellent à la Coupe du Monde avec l'Espagne en défenseur central, hein, alors qu'il n'y avait jamais
et après, tu lui mets la balle dans les pieds, c'est de la poésie. Donc, bon, bah, c'est Rodri, c'est un no-brainer.
Non, bah après, je comprends tous ceux d'entre vous qui disent Rodri, Ruben Diaz, parce que tu te dis que tu règles un peu ton milieu et tu règles un problème que tu as en défense et vous partez du principe qu'on garde les trois de devant. Mais moi, vu que je veux casser les trois de devant, forcément, mon choix il va être différent. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est un très très bon live. Ah, il y a Clovis qui peut-être ça fait plus 3, Basto. Tu as réussi à intriguer Clovis avec ton info
biathlon. Il a dit qu'il n'a pas compris l'info. Non, je suis pas sûr qu'il
Mais c'était quelle épreuve? C'était la poursuite, là.
La poursuite, ouais, elle s'est lancée 7e et elle a mis 30 secondes à la deuxième, au final.
Et très rapidement, on n'a pas parlé... On n'a pas parlé d'un sujet qui est où est-ce que vous voyez le Paris Saint-Germain finir? Donc, où est-ce que tu vois le Paris Saint-Germain finir en Ligue 1, Nyx?
Premier, parce que je peux pas concevoir Marseille champion, parce que je pense que le football et moi, on risque de faire une pause après si jamais ça arrive.
Oh, il y a Monaco, hein.
Franchement, si Monaco gagne, franchement, ça c'est déjà arrivé, ça m'a pas fait grand-chose. En fait,
mais s'il y a Monaco et qu'il y a Marseille devant Paris, tu le vis comment du coup?
Ils peuvent pas finir devant nous. Moi, à la limite, je peux accepter Monaco premier, Paris deuxième,
Marseille troisième. Je te propose autre chose. Ok, je te propose Marseille troisième, mais t'as Lens qui est deuxième et t'as le Paris Saint-Germain qui est quatrième. Parce que juste, j'amène le sujet parce qu'il y a un moment, il faut y réfléchir. Parce que vu la qualité de nos prestations, alors c'est peu probable hein, parce qu'il y a Kylian Mbappé qui va revenir, mais c'est une possibilité. Il n'est pas impossible qu'en dépit d'un nombre de points absolument oufissime sur la première partie de saison, qu'on finisse quatrième. Alors c'est vraiment la carte de la morosité. Il y a Kylian Mbappé qui fera que ça ne va pas se produire, mais déjà la première place, elle est extrêmement en danger, surtout avec la démobilisation Ligue des Champions et vu l'atmosphère qu'il y a dans le vestiaire. Mais alors la deuxième place, elle est en difficulté. Et la troisième, elle est vraiment pas garantie.
J'ai une autre question. On perd au Parc contre Munich assez largement, on va dire au moins par 2 buts d'écart. On fait nul contre Lille en championnat et on perd à Marseille en championnat. Est-ce que vous pensez que Galtier sera licencié?
Ça peut, ouais. Mais encore une fois, tu n'as pas de surface financière. C'est la problématique.
Non, mais tu as deux solutions internes qui sont Sacramento et Zoumala Camara.
Pour ça sera la solution. Voilà, ça peut être ça.
Je ne suis même pas sûr, moi. Je pense même pas qu'on Bah, en même fait, sur les quatrièmes à la 32e journée, tu sais.
je pense un peu comme Basto parce que, en fait, si tu vires Galtier, normalement c'est Campos qui peut le virer, c'est pas le président qui te vire. Et Campos, est-ce que
il va peut-être utiliser son fusible, hein, Campos?
Ouais, est-ce qu'il va accepter la pression du Qatar et entre guillemets lui dire que vous me laissez pas travailler et vous voulez virer mon coach alors que ça fait 6 mois que je suis là? Je suis pas sûr que Campos laisse faire. Donc à mon avis, si Galtier saute, Campos il saute avec. Et à mon avis, Campos il peut utiliser ce truc-là genre en mode: si vous voulez le virer, je pars avec. Et du coup, ça bloque la situation et le Qatar sera pas prêt à se faire sauter son DS. Parce qu'il n'y en a pas d'autres de rechange pour l'instant, tout simplement.
Bref, on est bien parti.
Ok, bah écoutez, c'était un très bon live. N'oubliez pas de liker, les gars. Vous êtes 235, s'il vous plaît. Likez, ça aide beaucoup la chaîne. On vous souhaite un bon dimanche et bon courage pour mardi. Hein.